bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour tout le monde.
Bonjour,
bonjour tout le monde.
Oui, absolument.
Alexis Rossignol, Tanguy Bassero sera là tout à l'heure. Et notre invité, Laurent Deutsch.
Bravo.
Cette bande originale avec Laurent Deutsch, c'est un plaisir de vous avoir, Laurent.
Merci beaucoup, bonjour à tous.
Bonjour.
Vraiment. Non mais vraiment, ça nous fait plaisir.
Mais je le crois.
C'est vrai?
Oui, ça fait plaisir aussi. Et je vous renvoie cette gentillesse.
Déjà, dès le début, vous me renvoyez.
La gentillesse pour l'instant.
C'est agréable. Laurent Deutsch, nous allons parler de votre livre. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire avant que nous en parlions de ce livre?
Celui-ci précisément un an, c'est-à-dire un an pour le construire, mais je l'ai dans la tête depuis bien plus longtemps, parce que vous allez comprendre très vite que c'est, au-delà de la langue française, c'est le plaisir et le bonheur d'aller enquêter sur ce qui se cache, ouais. Et surtout sur ce qui se cache derrière les mots, derrière le nom des choses et finalement derrière notre environnement immédiat.
Ça s'appelle Romanesque, la folle aventure de la langue française chez Michel Lafon, mais d'abord la folle aventure...
De quoi ?
De la vie de Laurent Deutsch. On va voir si la bande a bien bossé le dossier. Par exemple, Laurent Deutsch a gardé...
T'as fini la question là ?
Il a gardé
une tuberculose.
Il a gardé un drap de son enfance.
Ouais. Ah.
Voilà. Mais pourquoi a-t-il gardé
c'est son doudou.
Ce drap ? À quoi a-t-il servi ?
À sa naissance.
Exactement. Ah. Vous avez gardé le drap dans lequel vous êtes né ?
Je l'ai perdu depuis.
Non.
C'est un de mes enfants qui l'a perdu.
Ah, il faut le virer celui-là.
J'avais un petit drap. Dans
vous avez combien d'enfants ?
J'en ai trois.
Bah, c'est bon, il vous restera deux.
Deux, c'est bien, c'est mieux que trois.
Comment il a perdu le drap sur lequel, j'imagine, vous aviez mis tellement de
salive, de câlins, de larmes.
Non, je parlais d'attachement.
Il y avait tout. Bah ouais, c'est. Bah finalement, mon doudou, c'est devenu eux, donc ils ont tué le père. Ils ont commencé par tuer le doudou, et dans 10 ans, ils vont tuer le père.
Donc c'était un drap qui vous servait de doudou ?
Ouais, c'était mon petit doudou, c'était le drap dans lequel j'étais né, et je l'avais transformé en oreiller. Et avec le temps, il s'est évidemment abîmé. Dégradé et au bout d'un moment un de mes enfants l'a pris, a joué avec et on l'a oublié quelque part dans un train, dans un avion, mais vous savez ça arrive beaucoup, j'y suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre nous.
C'est pour ça que vous avez des mouchoirs en papier maintenant.
C'est plus pratique dans
comment
une poche.
Laurent Deutsch a-t-il réussi à gagner l'amitié d'un gros caïd de son quartier?
En le payant?
Non.
En lui achetant de la drogue?
Non. Expliquant l'histoire de France régulièrement?
Non, non, alors je vous demanderai de ne pas évoquer vos cas personnels.
Ouais, ah, moi je suis contente d'avoir rien dit pour une fois.
On parle de Laurent Deutsch.
Comment ?
Ouais. Il lui a appris à lire.
Il lui a rendu un service important.
Ah ouais.
Ouais.
Il lui a raconté une histoire tous les soirs.
Entre mecs, c'est un vrai service qu'il lui a rendu, non ?
Il lui a acheté une femme.
Daniel, ne parlez pas, ne faites pas cas de votre vie privée.
Entre mecs, c'est important. Il l'a amené au foot, je sais pas, il lui a trouvé des places pour
l'OM.
Il l'a
amené voir l'OM.
Il lui a trouvé des places.
Non, alors c'est pas des places, c'est des passes.
Des passes.
Ouais. C'est qu'en fait, il jouait, parce que Laurent joue bien au foot, et donc visiblement, vous jouiez mieux que ce caïd, et vous faisiez des passes pour qu'il marque.
Je jouais beaucoup mieux que lui, maintenant qu'on se voit plus, je peux l'affirmer. Mais je lui ai fait exploser son quota de buts marqués là où on habitait, c'était à Bobigny.
À Bobigny, oui.
Et dès que je suis arrivé le premier jour, j'ai compris que les codes n'étaient pas les mêmes qu'à Sablé-sur-Sarthe. Donc j'ai repéré le mec le plus balèze, le plus costaud, et je l'ai fait marquer. 12 000 buts, et je me souviens d'un jour où quelqu'un a voulu s'en prendre à moi pour un truc.
Si vous faites ça avec François Fillon, ça doit marcher.
Non, ça aide pas. Là, au contraire, j'ai juste entendu une grande voix me protéger. Après, lui, tu le touches pas. Je me suis retourné, j'ai vu un grand gaillard de 2 mètres, j'ai bien fait de lui passer des ballons à lui.
Clovis Cornillac, Edouard Baird sont passés deux fois devant Laurent Deutsch pour un rôle au cinéma. Lequel ?
Astérix.
Ouais.
Ouais.
J'ai pas de mérite.
J'ai jamais eu le rôle, mais j'étais le plus gros finaliste d'Astérix. À chaque fois, ça devait être moi, puis au dernier moment, ça a été un autre, donc Clovis ou Edouard Baird. Ouais.
Alors là, maintenant, c'est l'autodérision, vous en plaisantez, mais sur le moment, quand même, ça pique un peu ?
Ah, oh bah ça pique un peu, parce qu'en plus, moi
encore
je suis.
Encore aujourd'hui, non ?
Je suis. Non. Ça va, c'est à côté risé. La plaie à côté risé. Mais non, c'était. Bah oui, le bonheur de jouer avec des gens comme Depardieu, de participer à cette aventure-là. Puis Astérix et Obélix, c'est un monument. D'ailleurs, mon livre commence avec une histoire d'Astérix et Obélix, donc ça m'aurait plu de participer à cette reconstitution là, ce voyage dans le temps là, mais bon voilà, c'est.
Puis toucher 2 millions d'euros, c'est pas dégueu.
C'est pas mal aussi, ouais. Mais je crois que non, on en est plus là aujourd'hui, on en est plus là. C'est un film choral, il y a trop de salaires, il y a trop de partage. Il y a trop de mecs qui bouffaient là-dessus.
Laurent Deutsch a frôlé la mort, mais à quelle occasion ?
Voiture ?
Non.
Il a raté une passe.
Émission télé.
Il a raté quoi ?
Une passe à son caïd.
Non. T'es ivre mort. Non. Ah bah, je sais pas dans quel état il était, mais en tout cas.
Quand il naviguait.
Non.
Du sport ?
C'est du sport.
C'est du sport.
Foot ?
Non, soit
c'est
l'élastique.
Pardon ?
Rugby.
Non plus.
Dans l'eau.
Un sport extrême ?
Pas, normalement pas extrême, mais là il a
du
été.
Ski.
Oui, exactement. Ski. Qui a dit ski?
Moi.
C'est exquis. Parfait.
Ah, bien oui. Petit coup de cymbale, s'il te plaît.
Ouais. Oui, ok.
Merci. Est-ce qu'on compte toujours les points? Parce que moi, j'en mets
on les compte,
trois.
On les compte,
fois.
Les points. Non, t'inquiète pas.
Trois, t'as craqué, t'en as mis un, là.
Denis
les
compte.
Ça va, mais je vais faire des confiance.
J'hésite entre faire un bilan au mois de juin des points et voir une remise de prix et peut-être même un cadeau, ou alors ouais. Le faire à l'intersaison au mois de décembre. Je
c'est
sais
mieux,
pas.
Oui, parce que ça suggère un mercato. Ça suggère un mercato.
Ça suggère un mercato ou un licenciement. Voilà. Il y a deux possibilités.
Oui, le dernier peut être viré.
Ouais, ça c'est pas mal. Ouais,
le concept. Non. C'est plus que les gros salaires lèvent le doigt, c'est que les petits scores s'en aillent. Revenons à votre. Vous avez vraiment frôlé la mort ou c'est un effet de journaliste que de raconter?
Non, c'est quand même un effet de journaliste, mais c'était chaud puisque je tombais dans une crevasse au ski quand j'avais 14 ans.
Mais pas sur une piste normale.
C'était dans la Durance d'ailleurs, c'était la rivière la Durance où elle était recouverte de neige et on faisait du hors-piste avec ma sœur et je suis tombé dans ce trou d'eau qui conduisait à la Durance. Donc je sais pas la profondeur qu'il avait, mais je me suis en fait empalé mes skis dedans. Donc ce qui a fait une espèce de pont suspendu, j'étais au-dessus du torrent qui était recouvert de neige et ma sœur m'a sorti avec une main. Elle a eu tellement peur pour moi qu'elle avait la main cassée. Elle avait un doigt cassé, elle m'a sorti avec son doigt cassé, elle m'a sorti avec sa main cassée. Donc elle a dû voir plus le danger que moi qui me rendait pas trop compte.
Ça va dans la famille des au niveau, ah non, au niveau poisse, ça va, vous allez bien, oui.
Ouais, j'ai une entorse au poignet là, mais non, c'était impressionnant, ouais, c'était impressionnant.
Votre vie privée ne nous regarde pas. Qu'est-ce que Laurent Dutch collectionne?
Les râteaux.
Demande à ta femme.
Aussi. Mais quoi d'autre?
Je sais pas, les étiquettes Panini, un truc de foot, ouais. les maillots.
Ouais, exactement. Les maillots de foot, vous en avez combien?
Ah, je les ai. Alors là, pareil, je suis désolé.
Vous avez perdu?
Je les ai tous donnés, en fait.
Ah, c'est joli.
Je les ai tous offerts à des amis. Ouais. Je les ai offerts à des copains, j'en avais une trentaine à peu près.
De copains.
Et chaque jour.
Beaucoup.
Autant que de maillots, mais ouais, je les ai. Petit à petit, j'ai vu que on me regardait avec un peu d'envie, de gourmandise, et puis voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas les filer. Donc,
non, mais j'imagine que vous aviez
une
tendresse ou une affection particulière.
J'ai gardé celui de Bruno Bellone,
ouais.
Maillot qu'il a porté avec l'équipe de France. Non, pas lui.
Non,
lui, il a tapé dans le poteau et dans la tête du gardien France-Brésil 86, quand on se qualifie en demi-finale, un des plus beaux matchs de l'équipe de France. À l'époque, et il avait tiré dans le poteau, c'était revenu à la tête du gardien, c'était rentré. C'était un but incroyable en pénalty, Et donc j'ai gardé Bellone et j'ai gardé Nedved, qui est mon sosie quand même, ballon d'or avec la République tchèque. Celui-là, je l'ai gardé.
Et parmi les actuels joueurs de l'équipe de France, est-ce que vous êtes fan, admiratif de l'un? Vous avez suivi la Coupe du Monde?
Mbappé, c'est quand même le seul mec au monde qui fait que les Marseillais aiment Paris, quoi, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un génie, c'est un ovni, c'est un joueur en plus qu'il a une jeunesse, il a un sourire à décrocher les étoiles, il va à 200 à l'heure. C'est un sublime modèle, quoi.
Ah, il y a Kanté aussi.
C'est un milieu de terrain, donc il est époustouflant, hein. En plus, on vient de se rendre compte qu'il avait refusé de tricher dans la vie.
En plus, il
a une morale incroyable. Je veux pas dire que Mbappé l'a pas, mais en tout cas, lui, là, il a en plus cette dimension-là.
Je pense que Mbappé, c'est un salaud.
Non, arrête ça.
Un peu comme Nagui.
Alors moi, je suis un salaud.
Le tordu.
Mais Kylian, pour avoir la chance de le connaître et de connaître ses parents.
Tu sais que c'est un salaud.
C'est vraiment un mec bien.
Et puis il survole tout, quoi. Il survole tout. Il est immense. Il a une dimension incroyable à 19 ans. Donc voilà, c'est lui. C'est lui.
Après, on est vraiment obligé de parler longtemps de la Coupe du Monde parce que je pense que Laurent a un livre aussi.
C'est le Belge.
On peut parler de la demi-finale, mais alors très rapidement parce que
c'est dommage.
Ça vaut pas la peine d'en parler. Hein. Romanesque, donc, cette fois l'aventure de la langue française. Cette langue française, si elle n'avait pas suivi, et c'est la leçon que vous donnez d'ailleurs dans ce livre, si elle n'avait pas suivi les influences de toutes les migrations, les guerres, les ennemis, les voisins, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Exactement. Si elle avait suivi une règle, un code, s'il avait été orthodoxe, eh bien, je pense qu'on parlerait certainement le latin aujourd'hui. Le français est né d'un latin dénaturé qui s'est habillé de toutes ses rencontres, de tous ses métissages, de tous ses mariages, de toutes ses craintes, de tous ses espoirs.
Pardon, même le latin, initialement c'était les Gaulois qui étaient quand même dans la place. Et on peut vous reprocher votre amour du pays, et on vous l'a reproché d'ailleurs dans certaines déclarations, vous accusant d'être limite nationaliste.
Ouais, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand on aime son pays, ça veut dire qu'on n'aime pas l'autre.
C'est ça.
On est dans le j'aime pas. Alors que moi, je suis dans l'addition, je suis pas dans la soustraction. J'aime la France, mais j'aime aussi l'étranger. Et justement, je prouve avec ce livre, enfin, j'essaie de montrer à quel point avec ce livre, quand vous parlez français, vous convoquez un ancêtre, et cet ancêtre, c'est pas forcément un Gaulois.
Et d'ailleurs, le Gaulois, l'étymologie du mot Gaulois, on prend un coup dans, dans le nez quand même.
Moi, je suis convaincu.
Ou dans l'aile de coq. Ouais,
notre identité, si on doit la définir sans avoir peur de ce mot, sans croire que l'identité est un mot moderne et courtois pour parler de racisme, je crois pas du tout à ça. L'identité, pour moi, elle se retrouve de manière évidente dans la langue qu'on parle. La langue qu'on parle, les mots qu'on emploie sont des monuments qui nous racontent notre histoire.
Mais alors,
ces mots-là, on peut avoir avec le Gaulois.
C'est l'arrogance et la prétention du coq, c'est ça?
Ça c'est une vision romantique du 19e siècle. Au départ, le Gaulois, c'est tout ce qui n'est pas romain.
C'est
ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que ça date du 19e siècle. Hein? Non, le Gaulois, c'est l'étranger costaud, en gros. L'étranger pour le latin, le romain, et le costaud, le brave, enfin, l'étranger, pour le germain, et le brave pour le latin. Donc, c'est le mec un peu bourru, mais il y a 2000 ans, des mecs un peu bourrus, un peu costauds, il devait y en avoir beaucoup. Donc, c'est un peu tout et n'importe quoi, le Gaulois.
Et le paradoxe.
Le terme Gaulois, en tout cas.
Et le paradoxe, ce sont d'autres Gaulois. En fait, il y a différents Gaulois. Et c'est comme ça que tout a démarré. Sont allés se plaindre auprès de Jules César en disant, venez, parce qu'il y a des Gaulois qui nous.
Exactement.
On a besoin d'un coup de main.
Les Helvètes ont voulu perturber.
Bah, parce que les Gaulois, ils ont jamais réussi à faire l'unité autour d'un chef. Il y avait une centaine de clans. Ils étaient tous énervés les uns contre les autres. Et puis, à un moment, ils en ont appelé à l'arbitrage romain pour dire, venez nous aider, il y a des Helvètes qui veulent venir chez nous, ils veulent nous remplacer, etc. Les Éduins, qui en plus étaient une grande tribu, une des plus puissantes, qui à chaque fois voulaient contrecarrer les plans des Arvernes. Les Éduins, c'est ça, c'est les gens c'est les Bourguignons. Ça a toujours été des traîtres, les Bourguignons. Non, mais c'est vrai, c'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc qui se fait trahir par les Bourguignons. C'est les Bourguignons qui la chopent. C'est qui? C'est Maraud d'Artois, vous savez, qui va empoisonner les
Personne n'a chopé Jeanne d'Arc.
Ce qui paraît, on sait pas. Hein, c'est habillé en garçon juste après avoir été relapse. Enfin bref. Et c'est même Florent Pagny. Florent Pagny, il paye pas ses impôts chez nous. Il habite à Chalon-sur-Saône. C'est des traîtres, les Bourguignons. Ça a toujours été des traîtres. Non, je déconne, j'adore Florent Pagny.
On parle de l'unité nationale à travers la langue, c'est bien, c'est une explication.
Non, mais ce qui est fou, c'est dès qu'on fait une vanne derrière, on est obligé de rajouter non, je blague.
Mais non, en plus, c'est vrai. Non, mais heureusement, j'espère qu'il comprendra que
j'ai des bourguignons de qualité. Regardez, Émile Louis, il a réuni la France.
finissons-en avec cette.
Donc
cette
c'est vrai qu'ils ont appelé les Romains pour venir arbitrer au départ. Les Romains sont venus régler un conflit entre Gaulois et c'était tellement une cacophonie, c'était tellement un bordel que les Romains presque se sont dit bon, allez, j'y suis, j'y reste et je vais remettre de l'ordre dans tout ça.
Et le latin cher à Leïla et moi-même, Leïla pour l'avoir enseigné, moi pour l'avoir appris, j'aurais aimé que tu sois ma prof. Ça aurait été génial.
Calmez-vous tous les deux.
Ça aurait été génial. Il y a un invité.
Est-ce que je peux venir?
Ce latin a été choisi plus pour des raisons économiques, voire industrielles. C'était la langue du commerce.
Oui, vous savez,
tout le monde comprenne.
Les linguistes disent qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. Donc le latin, c'était la langue du plus fort. Donc celui qui voulait faire du pognon, avoir du pouvoir et s'enrichir et faire du commerce et faire des affaires avec l'occupant, il a fallu apprendre sa langue.
Ah, tu dois être bon en latin, Nagui.
C'était la langue. Le latin était.
C'était la
langue de l'élite. C'était la langue de l'élite. Alors après, ça s'est développé de manière culturelle. C'est-à-dire que les Gaulois, qui étaient très heureux de se latiniser pour être au plus près du pouvoir et de la richesse et de l'argent, eh bien, se sont mis à adopter les codes gaulois. Et ça a eu du mal à pénétrer en profondeur. Et ce qui a été le coup de grâce pour la langue gauloise en France, parce qu'elle n'a pas disparu quand même du jour au lendemain, on dit que la langue gauloise a vraiment disparu qu'au 6e, 7e siècle.
Il y a quelques mots qui restent derrière.
Il y en a 70,
on va revenir dessus.
Il faut avoir fait chasse, pêche et tradition, quoi. C'est que les mêmes poissons de brochet ou d'arbre, hein, donc c'est compliqué.
C'est ça. Non, c'est les.
Faut faire l'amour et dans le
frais. C'est les charrues, c'est le brochet.
Ouais, c'est la lauze, c'est la tange, le gêne, le frêne, le corbeau.
Ouais, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est très agriculture.
Les Gaulois, ils n'avaient pas inventé Internet, mais.
On va en reparler de ça.
En tout cas, c'est intéressant parce que c'est le même parallèle avec la langue française, le latin finalement. Langue d'une certaine élite à un certain moment qui est la langue qui doit fédérer et c'est la langue de la domination. Aussi, parce que finalement, quand dans votre bouquin romanesque, l'histoire de la langue française, c'est plus une histoire de la politique et des constructions politiques au fil des siècles, au-delà des anecdotes et de l'étymologie des termes. Mais finalement, la langue installe un pouvoir, la langue fédère, la langue domine, la langue transmet une identité, comme vous le disiez. Dire que, alors, on distingue pas forcément la langue du langage, du discours, parce que vous dites souvent, aimer le français, c'est aimer la France. Or, on peut aimer le français, être québécois, on peut. Il y a une notion de culture aussi qui intervient.
Bien sûr, c'est aimer la francophilie en quelque sorte, voilà. La francophonie. Moi, ce que je veux raconter, c'est qu'être français, c'est pas une histoire de race, de langue, de religion ou d'ancrage géographique. C'est vraiment aimer ce jardin qui s'appelle la France, dans lequel on vit, dont on est les héritiers, et surtout aimer cette langue qui raconte l'histoire de nos ancêtres. C'est vraiment ce qui m'a plu, quoi. C'est de voir que derrière les mots qu'on emploie, qu'on utilise et qui vont au plus intime de nous-mêmes, qui nous permettent de manifester des sensations, des émotions, il y a quelque chose de très intime, et bien c'est déjà quelque chose de collectif qui arrive de l'extérieur, mmh. Et c'est une grande histoire, c'est notre album de famille que vous me parlez tous les jours. Vous aimez le français, la preuve, vous le parlez tous les jours.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que au début j'avais un peu peur que ce soit que un livre sur l'étymologie
ah oui, non,
de
pas
la
du
langue.
Tout, c'est un état des lieux. Qu'est-ce qu'on parle au 7e siècle? Comment ils parlaient nos ancêtres?
Deux secondes, Laurent.
Ça va être dur entre les deux qui finissent jamais leur phrase.
Il y a non seulement, oui, des mots expliqués, leur étymologie, et elle est souvent drôle dans son origine, voire mélange de langues. Je pense à Califourchon, par exemple, mm-hmm. où il y a plusieurs langues
qui s'entremêlent
sans mauvais jeu de mots, parce que
qui s'enchevêtrent, c'est le cas de le dire. Couille gauloise, le cal avec la fourca latine qui est la fourche, quoi. C'est donc s'appuyer sur ses couilles, Califourchon.
Voilà. Tu vois, il a été
bon appétit.
Bref aussi. Hein.
Ok, super.
Ça intéresse Daniel tout d'accord.
Et on voit surtout que, et vous finissez d'ailleurs votre livre là-dessus, que c'est la langue du partage, que cette langue française que l'on aime tant, que le français, même déjà l'étymologie de pourquoi le franc, pourquoi le français, d'où ça vient, pourquoi on n'est pas plus gaulois que ça, et nos ancêtres les gaulois aussi, de la manière dont vous les décrivez, finalement cette langue, elle est vivante, comme le pays est vivant, et comme les frontières sont ouvertes, et comme les migrations et toutes les langues italienne, arabe, turque, russe ont influencé, je pense au bistrot, ont influencé aussi la langue française.
Bien sûr, figer la langue française, figer la France, c'est la tuer. Et si on avait figé autrefois, si nos ancêtres s'étaient comportés comme ça, on parlerait latin.
Et même ceux qui s'inquiètent alors de l'anglicisme.
Mais il n'y a pas l'anglicisme. Les Anglais, ils parlent à 50% français. 50% des mots anglais, ça vient d'un mot français. Regardez leur devise nationale. Regardez sur leur drapeau, c'est écrit Dieu est mon droit et on y soit qui mal y pense. Pendant 500 ans, à la cour d'Angleterre, on a parlé français. Les premiers qui nous inventaient un dictionnaire français-latin, c'est les Anglais. Le premier texte de la littérature française, qui est certainement la chanson de Roland, mmh. Ça a été écrit à Oxford, en Angleterre. Les Anglais, qui donc parlaient français à la cour, c'était donc aussi la langue du pouvoir, de l'élite, de la richesse, ont adoré tellement la langue française qu'ils l'ont parlé pendant 500 ans. Et si, aujourd'hui, le français est passé un petit peu en dessous dans la langue moderne, la langue économique, etc., la langue internationale, c'est évidemment l'anglais, c'est peut-être à cause de Jeanne d'Arc. Si elle avait paumé la guerre de 100 ans, certainement que dans le monde, on parlerait français.
On s'en serait bien passé de celle-là.
Ils auraient dû la choper. Non, mais
ça, c'est fou.
Et sur merci les Bourguignons.
Sur le côté.
Ils l'ont chopé trop tard.
Justement, la domination économique de l'anglais, qui, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul financier, il n'y a pas un seul économiste dans le monde qui ne parle pas anglais.
C'est du vocabulaire technique.
Le mot budget. Non, mais vous donnez l'exemple avec le mot budget. Et ça, l'exemple, il est frappant parce que budget a une étymologie française.
Bien sûr, c'est un mot français. C'est un mot français qui vient d'un mot gaulois, qui était boulga.
Boulga,
qui était l'aumônière, une sorte
de bourse. C'est Casimir l'origine de boulga.
Et c'était la bougette. Le vieux mot français, c'est la bougette. Mais il y en a plein d'autres. Le mot gadget. Je suis persuadé qu'autour de ici, de cette table, même les Belges vont nous dire que le mot gadget, c'est un mot anglais.
Bien sûr.
Mais bien sûr que non.
J'ai jamais réfléchi à la question.
Non, mais gadget, le mot gadget. Non, mais si, ça ressemble, quoi. À gadget, tu dis, gadget, c'est anglais. Alors que pas du tout. C'est une étymologie qui remonte à un patronyme qui était Gaget. Et qui était Monsieur Gaget? C'est celui qui a fabriqué la Statue de la Liberté. Ouais. Donc quand on l'a filé aux Américains, les Américains, pour remercier tous ceux qui avaient fabriqué la Statue de la Liberté, ont fait des petits bibelots, des petites babioles, des petites miniatures de la Statue de la Liberté. Et ils ont dit, est-ce que vous avez reçu votre Gaget? Et Gaget, c'est devenu donc un petit bibelot, un gadget.
Voilà. On le voit dans un cow-boy à Paris,
Jules.
Jules. Ouais. Il raconte cette histoire-là.
C'est passionnant, ça s'appelle le romanesque, ça permet non seulement de découvrir l'étymologie des mots, mais aussi de voir toute l'histoire, y compris d'ailleurs le titre, romanesque et la langue romane,
exactement,
et le roman, et comment c'est devenu un
jeu. Je joue évidemment sur les mots, que la langue, l'ancêtre du français, c'est le roman, c'est la langue romane, c'est elle qui s'est arrachée au latin pour avoir son existence propre, par contestation extérieure, c'est ça qui est formidable aussi. C'est que la langue française est un outil politique très fort. D'abord, c'est une volonté d'affranchissement par rapport aux anciens potentats qui étaient l'Église, avec Rome où ça parlait latin, mais avec l'Empire de Charlemagne où ça parlait tudesque. N'oublions pas que Charlemagne ne parlait pas français. Charlemagne était allemand, il parlait le tudesque. Et donc tout d'un coup, arrivent des Français, des Francs qui disent « Bah nous, on ne parle pas la même langue, on n'est pas le même pays, on a une autonomie. » Mais c'est aussi une contestation intérieure. Si je commence à parler la langue de mon roi, S'il n'y a plus de mystère, s'il n'y a plus de magie, si on parle la même langue, c'est comme déjà un embryon d'égalitarisme. On se parle d'égal à égal, on a la même langue. Donc qu'est-ce qui t'a fait roi? On parle le même langage. Et tout d'un coup, le roi a dit, oui, non, 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 mais on va remettre du latin. Pour remystifier un peu tout le monde, pour t'enfumer, d'où on guérit les écrouelles en latin, tu comprends rien? Ben oui, parce que je suis de nature différente. En ayant la même nature de langue, c'est faire de nous des égaux et de lutter contre la hiérarchie, les anciennes féodalités, avec d'un côté le noble, le clergé et le paysan. C'est déjà la révolution avant l'heure avec la langue française.
C'est chez Michel Lafon, ça s'appelle Romanesque, c'est signé Laurent Deutsch.
Ça y est, il a fini. Voilà. Ça y est, il a fini.
Enfin. Merci Albert Algo.
Il est prêt à en découdre.
Et tout à l'heure, nous recevrons François Reynard pour à nouveau parler des Gaulois, autres fadels.
Le maréchal, ça passe.
Et aussi l'art et la littérature. Maréchal Ganache, allez. Vous aimez évidemment et vous êtes sûr que ça va être un succès ce livre de Laurent Deutsch.
Affirmatif, Nagui. Vous savez, la lecture, mon dentier qui se décroche, la lecture de ce livre aussi substantiel que passionnant, je ne saurais trop la recommander aux membres de la bande d'analphabètes qui vous entourent et dont l'originalité, seulement, consiste surtout, émission après émission, à maltraiter,
trahir et souiller ce qui est supposé.
Appuie pas en même temps sur le bouton, parce qu'on t'entend pas.
Si vous mettez votre doigt sur le bouton, ça coupe votre micro.
On manque, ouais, il nous manque
des
phrases.
J'ai des gros doigts.
Il a du mal à contrôler ses membres, je vais lui tenir la main. Lâchez ça. Lâchez ça, Maréchal.
Oui, retirez votre doigt.
Fermez vos gueules.
D'accord.
Donc, dans l'originalité, disais-je, consiste surtout, émission après émission, à maltraiter, trahir et souiller ce qui est supposé être leur langue maternelle. Mais, en cet après 11 novembre, trêve de polémique. Oublions les propos belliqueux. Pour ma part, monsieur Deutsch, j'ai pris, comme ça se prononce, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai kiffé grave, puisque désormais, hélas, le verbe kiffer est admis dans le Larousse, j'ai kiffé votre ouvrage où l'on apprend des quantités de choses. L'origine du doigt d'honneur, origine militaire, celle d'expression comme faire le mariole, origine militaire, rouler des mécaniques, ça je me souviens plus, baragouiner, où l'on découvre aussi qui était Saint-Glinglin, et pourquoi on appelle Germain les Boches, les Teutons, les Fridolins, les Fritz, les Doriforts. Excusez-moi, ça m'a échappé. Vous me direz, il n'y a pas que du mauvais chez les Cheleux. Je vous le conseille. Après tout, les Allemands, on leur doit des termes militaires comme képi et surtout maréchal. Très beau terme. À propos de termes militaires, Nagui, j'ai été choqué en vous entendant crier à Genby, notre rédac-chef, le gars de Coulommiers, juste avant l'émission. Ah, ça, c'est Nagui qui parle.
Oui, oui.
À part les mots
précise,
goulash.
Parce que l'imitation, elle est pas top.
Alors, oui, vous savez, je suis pas un imitateur approximatif.
Dépêchez-vous!
Comme Albert Algo. À part les mots goulash et paprika, les ancêtres hongrois de Laurent Deutsch, ils n'ont pas apporté grand-chose à la langue française. Oh, c'est vrai, au mon maître du bon français. Mais les Hongrois, on leur doit quand même les mots sabre et hulin. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je me suis fait réformer lâchement, je passerai sur cet épisode, et j'ai jamais eu de sabre. Écoute-moi bien, JNB, s'il y a un truc dont je suis certain, c'est que je n'aurais jamais accepté de faire mon service en t'enculant. Voilà, voilà, monsieur Deutsch, comment se prépare la bande
tout
originale.
Ça pour cette vague.
Vous voyez le niveau.
Oh, Dieu.
Vous voyez le niveau.
Quelle honte, mais quelle
bonne émission.
Mais quelle honte.
Il cite ces mots. Les mots sont cités dans le livre.
Hulan, c'est pas mon hongrois.
En tant que Hulan, il faut dire.
Hulan, c'est pas mon hongrois, c'est Hussard qui est hongrois. Voilà, je veux dire le 20e hongrois.
Et en tant qu'Hussard, ça va rien dire.
Voilà, donc je pourrais me permettre une petite escroquerie, moi aussi.
Il y a. Est-ce que vous avez pu tout mettre dans ce livre? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est. Donc aucun enchaînement, il se souvient de ce que vous dites.
Est-ce que vous avez pu tout mettre?
Oui, parce qu'il est très, dense. Il a fallu faire des choix, c'est il a fallu faire un tri.
Ben oui, le plus dur quand on fait un livre, c'est de pas trop en mettre. Sinon, ça devient un almanach, ça devient une espèce de compilation sans problématique. Moi, j'avais une ambition en fait. Je voulais vraiment expliquer pourquoi cette langue française était si généreuse, elle était si ouverte, et donc il a fallu ne pas tout dire pour rester concentré sur mon thème, sur ma problématique et sur la conclusion que j'avais envie d'apporter sur cette richesse, sur cette ouverture, sur cette langue qui saute par-dessus les codes et les lois. Toujours. On est libre, dans le titre.
On va faire un jeu tout à l'heure avec justement quelques mots pris comme ça dans le livre pour retracer l'étymologie et leur parcours historique. Laurent Deutsch est notre invité jusqu'à midi et demi. Voici Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous. Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour.
Puisque vous êtes l'invité, j'ai envie de parler d'un peu d'histoire aujourd'hui. Et j'ai envie de le faire en chanson.
Ah bah parce que vous savez chanter.
Oui,
vous.
Parce que oui, Nagui, je sais chanter. J'ai été enfant de chœur quand j'étais petit. Le prêtre disait que j'avais un bel organe.
Non,
elle est pas terrible celle-là. On va accueillir un copain, un musicien que j'ai rencontré dans le métro. Alors j'espère que cette visibilité qu'on lui donne aujourd'hui va lui permettre de peut-être de se faire connaître et de dormir au chaud cet hiver. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On est parti, vous êtes prêts? La chanson s'appelle L'à peu près histoire de France. Donne-moi un petit là, on va mettre un accessoire.
Très bien.
Oh non!
C'est bon, je l'ai.
C'est bon? On dirait Carla Bruni.
Ok, MC prof d'histoire est là, ouais.
Snoop proviseur.
Ouais, un petit son en direct de Paris.
75.
En passant par Brive-la-Gaillarde.
J'ai pas ça.
Ouais, c'est pas grave. Dédicace à mon crew d'historien.
À Stéphane Bern.
Laurent Deutsch.
Le gars des chiffres et des lettres.
Bertrand Renard.
Et à Célio pour les costumes.
Ok. On est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On va te conter l'histoire de France en faisant du RAP. Ok, préhistoire. À l'époque, sur les murs, on dessinait nos potes.
T'as entendu parler de Lascaux?
Pas la Julie, hein, la grotte. Ils n'avaient pas la télé, mais des idées plein la tête.
Ils mettaient des gilets jaunes
contre le prix des pots de pète.
Big up à tous les homo sapiens qui nous écoutent.
Ouais, on vous oublie pas, les gars. Ensuite, il y a eu les Gaulois qui ont tout perdu à Alésia.
52 avant Jésus-Christ, je l'ai lu sur Wikipédia.
César a mis très cher à Vercingétorix.
Et si j'aurais été lui, j'aurais déposé plein de contre X.
On est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On va te conter l'histoire de France en faisant du RAP. 25 octobre 1632, les Arabes débarquent à Poitiers.
Par la N147 en provenance de Pitié.
Et Charles Martel a pris son micro, il leur a crié stop.
Eh les gars, vous toucherez pas
au Futuroscope. Évoquons maintenant la Révolution française.
Une sorte de manif CGT en beaucoup plus balèze.
Le peuple était dans la rue et criait nique la police.
C'était plus violent qu'un clash entre Pouba et Caris.
On est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On va te conter l'histoire de France en faisant du RAP. De Gaulle a écrit l'histoire comme on écrit du hip-hop.
Il a gagné la seconde guerre à base de pop 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 pop.
Il a mis ses Air Max et son képi à l'envers.
Et il est parti au clash contre l'ennemi MC Hitler.
Ok, l'ennemi MC Hitler, l'ennemi c'est Adolf H-I-T-L-E-R, ouais. Tous les bras en l'air, ouais, je veux voir tous les bras en l'air, ouais. Son nom c'est Adolf H.
Ouais, non, c'est chaud ça.
Bon, on n'est pas sur Radio Courtoisie, ça va pas le placer. Ok, pardon. Ok, ouais, freestyle. 496,
baptême de Clovis.
1431,
brûlage de Jeanne d'Arc.
1515,
bataille de Marignan.
1789, naissance de Jean-Marie Le Pen. Ouais, on est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On t'a conté l'histoire de France en faisant du RAP. Ok, encore, on est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On t'a conté l'histoire de France en faisant du RAP. Ok, y'a du pop dans la salle ou pas? Quand je dis France Inter, vous dites on est là. France Inter,
on est là.
France Inter,
on est là.
Quand je dis optique, vous dites 2000. Optique,
2000.
Optique,
2000.
Quand je dis est-ce que vous pensez que l'Union Européenne aurait dû ratifier le protocole d'adhésion à la CEDH en 2015, vous dites n'exagérons rien.
Ouais, c'est un peu trop polémique.
C'est trop polémique. On fait refrain, ok, trop, ouais. On est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On t'a conté l'histoire de France en faisant du RAP. On est bien sur France Inter. Accroche-toi à ton canapé. On t'a conté l'histoire de France en faisant du RAP.
Merci.
France Inter. Nagui.
Pas bien, Guilbeau.
Il faudrait quand même que tu introduises ton ami, enfin que tu présentes ton ami.
Ouais, Fabien Guilbeau est humoriste également.
Tout à fait.
On fait partie d'une troupe qui s'appelle le Love Steady Crew. On joue ensemble très souvent. Et il a aussi un spectacle où il est seul en scène avec sa guitare et c'est très très drôle.
Et Alexis, on le retrouve le dimanche à 19h30 au Scénarium.
Parfait, merci voilà. Les garçons,
merci.
Bravo. La musique cette fois-ci, mais la vraie, avec la bande originale de Laurent Deutsch. On va commencer en 1987, où vous écoutiez Gold. Laurent, vous entendez ce titre de Gold, vous revoyez quoi dans une chambre avec des posters, dans une...
Ah ouais, je me revois en CM2.
En CM2.
Ouais, ouais. Doit être à peu près cette période-là, parce que je l'avais amené dans ma classe, je l'avais acheté au centre commercial, et je l'avais amené dans ma classe pour l'écouter, et le faire écouter à mes amis en disant « Mais regardez, ça c'est génial, et ça parle des étoiles, et tout. » J'ai pas trop compris le sens caché, mais sur les boat people, non, mais c'était sur les boat people vietnamiens, et voilà, c'était mon premier contact en plus avec une actualité qui pouvait être douloureuse, alors que moi j'avais grandi dans un oreiller à Sablé-sur-Sarthe où tout était heureux, et tout
d'un coup... Aujourd'hui, dans les karaokés, les gens qui chantent Gold se disent pas « Je chante pour les
migrants. » Oui, c'était pas forcément pour les boat people, mais voilà, ça m'avait marqué, et j'avais fait un exposé, et du coup, je m'étais intéressé aux boat people, au sort des petits Vietnamiens à 12 ans, voilà, en CM2, je me rappelle de ça.
12 ans en CM2.
Ouais,
11 ans. Sûr, 11 ans, 5e 11 ans. À 12 ans.
Non, mais j'étais peut-être pas. J'avais peut-être pas 12 ans alors. Mais si, j'avais 12 ans.
Ah, si.
Mais si, 86.
Non, 12 ans.
Non, 86, j'étais en CM2. Je suis fin d'année.
Vous êtes sûr, vous avez été à l'école?
Non, 86, je suis en CM2.
Non, elle a raison. Tu peux pas avoir 12 ans.
J'ai eu des 5e, ils avaient 12 ans. Je veux dire, ils avaient 11-12 ans.
Je passais en 6e. 6e, j'étais en 6e.
Alors, 12 ans en 6e, ça va.
Je sais pas, je sais que cet album-là, j'ai fait un exposé dans ma classe et c'était, je suis sûr, en CM2,
en
je crois.
Primaire, ouais.
Donc ça doit être sorti en 85, 86.
Est-ce que tu mets de la barbe en 5e?
Je crois que c'est pas 87, ça devait être 85 ou 86. Ouais. Faut regarder quand est-ce qu'il est sorti, là, un peu plus près des étoiles.
On a parlé du football tout à l'heure, à 12 ans, voilà, au moins l'âge, vous entrez en sport-études.
Voilà, là je rentre en sport-études en 5e. Donc là, par contre, on est en 5e.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est plus à 13 ans, je crois. À Nantes, ouais. À la Collinière, en sport-études.
Et vous dessinez vraiment à une carrière de
footballeur. J'espère, je fais tout pour, mais malheureusement, je suis trop petit et on m'indique la porte de sortie pour des raisons physiques parce que je pouvais pas m'entraîner sans ballon. C'est-à-dire que le travail musculaire, vu que j'ai pas ma puberté. Je pouvais pas le faire.
Vous l'avez eu finalement?
À 17 ans.
Mais on vous avait proposé d'ailleurs de prendre des amphétamines.
On m'a proposé de prendre des hormones de croissance.
On m'avait
proposé des hormones de croissance et j'ai été voir un professeur à Paris qui était à Cochin, l'hôpital Cochin. Il s'appelait le professeur Luton et qui m'a déconseillé de le faire. Voilà. Mais monsieur qui m'a dit on sait pas trop les effets secondaires, les trucs comme
ça.
Et il m'avait dit surtout les centimètres que tu vas gagner maintenant parce qu'on va déclencher ta puberté, donc tu vas devenir un homme. Mais tous les centimètres que tu aurais pu prendre avant, tu les prendras plus.
Alors cette phrase peut être très dangereuse à dire. Ce micro.
En mêlant puberté et
les centimètres que tu vas prendre, le maréchal s'est réveillé.
Il est là aussi.
Moi j'ai fait un don à la science.
Non mais quand on sait les problèmes qu'il y a eu avec les hormones de croissance, finalement, on se dit.
Mais c'était à cette époque-là, c'était en 88.
Ouais, c'est ça.
C'était 88.
C'est ça. Et comment on le vit? Parce qu'on est un petit garçon, vous avez 12 ans, 13 ans, vous avez forcément cet espoir.
Moi j'étais persuadé qu'il y avait un complot. Moi j'en ai voulu à la terre entière et surtout aux Nantais, puisque les Nantais revendiquent leur attachement à la Bretagne et moi je venais des pays de la Loire.
Ouais.
Donc j'étais persuadé qu'ils voulaient pas de cutéreux, quoi. Ils voulaient que des marins. Et dès que vous arriviez des départements comme la Mayenne, le Maine-et-Loire ou la Sarthe, pour les Nantais vous étiez des gens à manier.
Encore aujourd'hui,
ils regardaient que du côté du Morbihan.
Mais ils ont raison.
Ils se sentaient bretons alors que moi ils faisaient partie d'une région étrange qui s'appelle les pays de la Loire, très composite. Et les Nantais, voilà. Donc je me suis dit, c'est mes origines de cutéreux et de paysans qui détestent les enfoirés. Ça n'a rien à voir avec le niveau.
En 1995. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse, pas qu'il glisse, regarde-le, quand tu te parles les coups bleus, ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Vous écoutiez Alexis Lerossi. Ah non, pardon. C'est NTM. Laisse pas traîner ton fils.
Et vous étiez en troisième à ce moment-là.
Je peux le situer plus précisément. J'étais en première année de philo.
Et on vous retrouve dans pas mal de spots publicitaires à la télévision. C'est aussi comme ça qu'on vous voit. Un certain nombre de marques. C'est assez diversifié. Des campagnes aussi anti-drogue, anti-tabac. Qu'est-ce qui suscite tout d'un coup cette envie de participer à ces clips-là? C'est financier? C'est une façon d'être exposé, de rencontrer
manger,
des gens?
Ah, c'est alimentaire, remplir le frigidaire. Moi, j'ai jamais voulu être acteur.
C'est vrai?
J'ai jamais eu l'ambition d'être comédien. Et pour avoir croisé des comédiens qui étaient vraiment en mission pour ça, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, qui n'ont pas hésité à mouiller la chemise et à partir dans des situations complètement compliquées où il n'y avait rien à gagner, où c'était vraiment de la souffrance pour peu de spectateurs, de choses comme ça. Mais c'était leur vie. C'est le cas de ma femme, par exemple, qui est vraiment née.
formidable.
Merci pour elle.
Elle est formidable
dans
le prénom
en ce moment, tous les soirs, aller voir cette Marie-Julie Beaupe, aller la voir.
Elle est formidable.
Et elle vraiment est vraiment née pour ça. C'est son sacerdoce, quoi. Elle est comédienne. Moi, c'est pas le cas.
Vous en parlez comme si vous n'étiez pas comédien aujourd'hui.
Si, je suis acteur. Moi, je suis conteur. Moi, j'aime raconter des histoires. Donc, je suis content de le faire avec la langue ou avec la plume. Mais avant tout, au début, notamment en 95, quand j'ai commencé à faire des pubs et des petits tournages par-ci par-là, c'était une combine. C'était une combine pour gagner ma vie et pour partir et payer mes vacances.
2003-2004, vous écoutiez ça. 113.
On est dans la bande sans faire toc, toc, toc.
113 intouchables, dans ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser.
On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc.
113 intouchables, dans ta gueule, c'est un hold up.
On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente, tu seras pas seul à embrasser le sol.
La musique urbaine, ça a toujours été.
J'ai toujours aimé le rap, ouais.
Ouais.
Mais parce que j'aime la langue. Et le rap, et c'est d'ailleurs pourquoi je dédicace mon livre à Jamel Debbouze, c'est quand j'ai eu la chance de travailler avec lui, j'ai vu un poète.
Et Denis Baudalides.
Aussi, parce que la langue, voilà. C'est un accordéon. La langue française a besoin de syntaxe pour se fixer, pour se codifier, pour se transmettre. Sinon, c'est comme le gaulois qui passait pas à l'écrit, ça va disparaître. Mais la langue française, comme je disais, elle est avant tout orale. L'écrit vient après. Les premiers dictionnaires, les premières grammaires en France, c'est mis au XVIe siècle. Ça faisait déjà 1000 ans qu'on parlait le roman, ou en tout cas ce latin dénaturé. Et des gens comme Jamel ont réinventé la langue avec la poésie, avec de l'émotion, de la sensibilité. Ils ont refait sonner les mots. Et c'était un génie. Et alors quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, c'est magique de parler français avec lui.
Alors qu'il fait rire avec des fautes de français.
Et avec
des
une lacune.
De... Oui.
Et avec des lacunes. Jamel, il avait des lacunes. Le français, c'est pas sa langue maternelle. C'est des lacunes qui l'a transformé en qualité incroyable et en talent qui fait qu'aujourd'hui, Jamel Debbouze, il est dans le dictionnaire.
Et dans ces années-là, ouais, c'est joli de dire ça, ouais.
Mais c'est vrai.
Ouais.
Et c'est pas lui faire injure que de lui dire, ouais, que c'était des lacunes. Il prenait un mot pour un autre, mais il comptait tellement sur la force de la forme,
ouais,
que c'est devenu le fond.
Ouais. Et il joue vraiment avec la langue. Si on revient à votre carrière en 2003-2004, c'est une belle année. Vous avez reçu le prix Jean Gabin.
Oui.
Vous êtes nommé au César.
Ah, je l'ai pas eu, c'est Jean-Paul Rouve.
Ouais. C'était dans 3-0, c'est ça.
Ouais.
Hein, ouais. C'est une grosse déception, ça ?
Non, pas du tout. Le film, j'étais heureux d'être déjà convoqué, d'être déjà lauréat.
Le film, c'était une grosse déception.
Ah non, le film 3-0, il était mythique, le film.
Oh, non,
il vieillit super bien, Nagui. T'aimes pas Paris ?
C'est vrai.
Non, le film.
C'est si jeune.
T'aimes pas Paris.
Merci, moi. T'aimes pas Paris. Définitif. Ouais, c'est tout un peu Paris.
Non, il est drôle, le film. Non, puis il vieillit bien. Non, c'est marrant sur le foot. Tous les footballeurs sont hyper fans de 3-0. C'est un des films, honnêtement, c'est un des films les plus drôles et les plus réussis autour du foot. Et dont les scènes de foot sont les mieux jouées. Je dis pas parce que c'est moi qui suis mal au pied, mais c'est là où on y croit un petit peu. Tu vois les buts que je mets, notamment contre le Barça, le retourné. Il est beau, hein. C'est mieux que Patrick Devers qui marque des buts du tibia.
Ah non, voilà. On touche pas à coup de tête. Vous êtes fous, quoi. Vous allez faire des ennemis.
Les scènes de foot dans coup de tête, elles sont désastreuses.
Ouais,
le mec, il est sur la ligne de but pour marquer tellement il sait pas jouer.
C'est quoi Coup de tête ? C'est un film sur la carrière de Zidane ?
c'est ça.
J'adore Patrick Devers, mais c'est un acteur. Football, balle au pied, c'est plus difficile.
On passe à l'année 2005, ouais, où là vous écoutiez Ozone.
Assumer celle-là.
Ah bah avec un peu d'alcool en boîte de nuit, ça peut passer, mais là, à la radio.
C'était simplement pour vous remettre le refrain dans la tête. Ça va vous accompagner toute la journée, je suis désolé. J'ai eu cette chanson dans la tronche pendant des années, et comme malheureusement je suis d'origine hongroise et que j'allais en Hongrie à cette période-là, ils écoutaient ça tout le temps et partout, je n'en pouvais plus. C'était pire qu'un slogan publicitaire à la radio, quoi.
Donc
le
en fait,
truc
c'est pour
entêtant.
C'est pour vous énerver vous-même à nouveau que vous la.
Voilà, c'est reparti. Maria.
Ça veut dire quoi d'ailleurs, Dragosti Dinti?
Je sais pas, c'est du roumain, moi je suis hongrois.
Ah, c'est du roumain.
Bah, pour Nagui, c'est tout pareil. Ça.
Mais je savais pas,
tu passes la porte de Montreuil.
Ils viennent dire que c'était un peu un tube en Hongrie. Donc
bah ouais, parce qu'ils écoutaient tout ça aussi, quoi. Ça a été un truc qui a été planétaire. C'était horrible. Mais en même temps, c'est marrant. C'était un été, quoi.
Et là,
c'était
dans une fiction, vous incarnez Jean-Paul Sartre.
Ouais, oui. C'est une année assez forte. Vous incarnez non seulement Jean-Paul Sartre, mais aussi Mozart. Alors si on s'intéresse à Jean-Paul Sartre, tout d'un coup, incarner un personnage aussi fort, dont tout le monde visualise clairement le visage, il y a encore des archives. On peut voir Sartre. Dans quel état d'esprit on se met pour préparer un rôle comme celui-ci ?
Mais l'avantage, c'est qu'il y avait deux biopics sur Sartre à la même époque. Et c'est Denis Podalydès qui faisait le Sartre plus âgé, dont on a plus d'images. Donc il y a plus de traces, donc il y a vraiment des enregistrements sonores, etc. Donc c'est malheureusement lui, et d'ailleurs il l'a fait super bien, qui a dû se coller à la mimétisme, ouais, au côté ressemblance. Moi, c'était le Sartre à 20, 25 ans, 30 ans, où il y a peu d'images, il y a des photos. On sait juste qu'il a une voix qui n'est pas du tout celle qu'il a eue à la fin, une voix métallique, très cassée. Mmh. Il a une voix beaucoup plus suave, beaucoup plus gourmande, beaucoup plus onctueuse. Il est assez séduisant. donc ça me ressemble.
Et le strabisme.
Alors le strabisme, j'ai pas la chance, comme vous, Leïla, d'avoir une petite coquetterie dans l'œil.
Tu veux dire qu'elle louche ?
Ouais, vous avez un petit strabisme, vous, Leïla. Vous avez
un petit strabisme. Première nouvelle,
sûr.
C'est ton côté d'Alida. C'est ton côté bourré surtout, parce que hier c'est le beau jour nouveau, les gars.
Une légère fatigue qui fait qu'elle a une paupière qui peut être légèrement plus basse, mais là.
Non, mais je suis sûr que vous avez un petit truc dans l'œil comme
l'air. En fait, elle est borgne, mais elle n'a pas
dit. Moi, je remarque, les gens comprennent pas.
Pas du tout, non, mais moi, je la connais, j'ai vu plus souvent que vous, et c'est faux.
Moi, je la vois tous les samedis à la télé.
Je peux vous dire, sans son œil de verre, elle est vraiment charmante.
Tu vas pas mieux réveiller.
Elle a d'autres défauts, ceci dit, attention.
De temps en temps, elle a les yeux qui se révulsent, mais ça n'a rien à voir.
Ça, c'est un problème digestif. C'est la première fois que j'entends dire qu'elle me strabisse.
Non, il y a un tout petit truc. Vous avez pas les yeux
qui se révulsent. Tout fait, mais pas ça.
Surtout le côté, vous le savez, il a quand même, vous avez un strabisme.
Il y a un tout petit truc. Il y a un tout petit truc.
J'ai hâte des 10 prochaines minutes où il va parler de l'odeur de Daniel Morin.
Enfin, là, on est tous d'accord.
J'en ai marre.
Là, il y a aucun doute.
J'appelle le gars Coulomiel à la carrochère parce qu'il va faire quelque chose.
Non, mais pour en revenir à Sartre, s'il te plaît, pour parler du strabisme divergent de Sartre, parce que moi, Leïla, je suis sûr que vous avez un tout petit strabisme.
Mais arrête !
Il est convergent. Il est pas divergent. Sartre, il avait donc un Sartre. Convergent.
Converge,
lui, il est divergent. Et converge. La verge qui était la vie, la virgule autrefois.
Pardon ?
La virgule. Isidore de Séville, quand il invente la ponctuation sur les textes à l'écrit, il appelle la virgule la petite verge. C'est joli.
Il y a une expression à Rigaud qui dit, pour le strabisme, il y a un œil qui mange les cerises et l'autre qui crache les noyaux.
Un qui joue billard et l'autre qui compte les points. On peut y aller ?
Oui, pardon. Donc il avait un strabisme divergent. Et du coup, comme moi, je suis un bigleux et que je vois rien du tout, on a simplement fait un.
C'est pour ça !
C'est Claire Chazal que vous avez raconté.
Alors ce pull rouge vous va vraiment vraiment bien.
Je vous invite à regarder le journal de France 2 le samedi avec Leïla Kaddour et vous verrez en la regardant fixement dans les yeux qu'il y a un œil qui part un petit peu à l'intérieur.
Laurent, vous savez que vous êtes en train de regarder Albert Algou quand vous dites ça. C'est pas du tout Leïla, c'est Albert.
Ah merde, c'est pas mon doigt.
Votre labrador, il est où?
Moi je voulais juste savoir. Bon, laissons tomber
non,
ça.
Non, mais si, mais ça. Du coup, j'avais des vers où sans correction. Ah ouais, j'avais des vers sans correction. Et du coup, comme j'ai des loupes à droite, j'avais un énorme œil et un petit œil. Ah, voilà. Et c'est ce qui faisait une impression gênante au niveau des yeux. Et voilà, les regards sont pas symétriques.
Avez-vous rencontré Marie-Julie Beaup sur Mozart?
Oui.
C'est ça.
Oui,
c'est donc votre métier de comédien que vous n'aimiez pas particulièrement, qui vous a permis de rencontrer la femme de votre vie.
Je l'aimais sur scène avant de l'aimer dans la vie. Et son plus beau rôle, mon plus beau rôle, c'est de l'avoir épousé. Ouais.
Mmh. Oh, c'est
beau, mais il était parti sur son plus beau rôle, c'est m'avoir épousé.
Alors pour en venir à Leïla, ça vient d'où ce truc à l'œil?
Pour en revenir à François Arenas. Bonjour François.
Bonjour Nagui.
On va parler de vos yeux tout de suite, François, ça va pas du tout. Vous êtes journaliste à l'Obs, l'auteur de nombreux livres d'histoire, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. Vous rejoignez un peu ce qu'a dit tout à l'heure Laurent.
Non, mais c'est parce que Leïla, les gens vous ont pas aussi regardé intensément. Je vois mieux que les autres.
Vous venez de publier un très bel ouvrage, Le Petit Larousse de la culture générale, écrit avec Vincent Brockveld, où vous classez par catégorie la littérature, l'économie, et avec beaucoup de... Ça se veut encyclopédique, en fait, une petite encyclopédie, plus qu'un dictionnaire.
Oui, l'idée c'est de faire un résumé simple des grands thèmes de la culture générale européenne. Donc, en littérature, on parle de Cervantes, les pièces de Shakespeare, pourquoi c'est important, lesquelles sont, etc. Mais il y a aussi, par exemple, la religion. On entend parler de religion tout le temps aujourd'hui. La plupart des gens n'ont plus les codes. Ouais. Poutine avec les orthodoxes, ça veut dire quoi, les orthodoxes, les protestants, etc. Donc le petit Larousse de la culture générale, c'est de dire on va mettre tout ça en marche. Ou en économie aussi. Tout le temps, on entend des raisonnements économiques.
Vous rejoignez vraiment, parce que dans votre livre, Laurent, vous dites aussi que la religion, le christianisme a fait que le latin est devenu la langue parlée, parce qu'il fallait une règle et que tout le monde parle la même langue.
Il fallait qu'on se comprenne. C'est Saint-Augustin qui disait arrêtez de bien parler, il faut surtout bien se comprendre.
Ah bah là, par exemple, pour rebondir sur ce que dit Laurent, par exemple, le protestantisme, quand Luther il déclenche la réforme, le protestantisme, son idée c'est de dire non, mais il y en a marre du pape, c'est la rupture avec le pape, tout le monde doit pouvoir lire la Bible. Donc un chrétien, il doit pouvoir lire la Bible même, c'est la base du protestantisme. Et donc, pour lire la Bible, il faut arrêter le latin. Donc Luther, il dit il faut qu'il y ait une Bible en allemand pour que les gens puissent la lire. Mais personne ne parlait le même allemand à ce moment-là. Donc Luther, c'est celui qui a unifié la langue allemande parce que tout le monde veut veut pouvoir lire la Bible et sortir du latin, effectivement.
Et les premiers dictionnaires français et les premières traductions de la Bible sont faites par des protestants. Mmh. Lefèvre d'Étaples, les gens comme ça,
c'est,
Maigret...
C'est la même idée, quoi. Ouais.
Et vous en parlez également dans,
oui, j'en parle aussi du 16e siècle.
Absolument, ouais. Pourquoi l'histoire passionne autant en ce moment? On le voit, que ce soit d'abord dans les fictions qui s'appuient sur des faits historiques plus ou moins proches de nous, en tout cas pour étayer leur scénario, ou que ce soit dans les émissions radio ou télé.
Bah, ça, j'ai du mal à répondre ça, parce qu'à mon avis, l'histoire...
Je vous demande de répondre quand même, François.
Oui, d'accord, mais l'histoire a toujours passionné.
Faites un effort, François.
L'histoire a toujours passionné. Il y a la plupart des dans les grands hommes politiques français du 19e siècle, Adolphe Thiers, c'est un grand historien. Donc Guizot, c'est un historien. Donc il y a eu toujours ce rapport-là. Et puis c'est pas seulement français. Dans tous les pays du monde, il y a un rapport à l'histoire. Par exemple, je parlais de la Russie à l'instant. Poutine, il passe son temps à faire des références historiques. Il se prend pour un nouveau tsar de Russie, etc. Donc ce qui est intéressant, je pense que les gens ont toujours été passionnés par l'histoire, mais c'est quelle histoire on raconte, Donc moi, dans les livres que je fais,
quel est le moteur? Oui, je vous en prie.
Oui, pardon. Dans les livres que je fais ou dans le Pilarus de la culture générale, moi je trouve que aujourd'hui c'est très important d'avoir les bases de l'histoire de France. Donc elles sont dedans, mais c'est très important aussi d'avoir les bases de l'histoire européenne, de savoir, parce qu'on est allié avec les Allemands, les Espagnols, les Italiens, donc d'avoir les bases de cette histoire-là, et puis d'avoir les bases de l'histoire du monde. Par exemple, là, dedans, on fait quelque chose sur les grandes pages de l'histoire chinoise. Pour la plupart des gens, l'histoire chinoise, c'est très, très loin, on comprend pas pourquoi, etc. Pourtant, ça nous concerne, parce que les Chinois, au nom de leur histoire, ils veulent reconquérir le monde. Le 21e siècle, il va être dominé par la Chine, elle veut dominer ça, au nom de son histoire, elle a été humiliée par l'Occident au 19e siècle. Elle dit maintenant c'est mon tour, il faut qu'on apprenne un peu ces bases-là. Donc l'histoire c'est très important parce que c'est un instrument politique pour comprendre l'avenir.
Et c'est une construction politique aussi, raconter l'histoire
objective, ça n'existe pas. Toute histoire, elle est toujours... Ce que je dis toujours aux gens que je fais des conférences...
Est-ce que c'est la quête de racines? Est-ce que les gens veulent savoir justement ce qui s'est passé ou simplement on s'intéresse à des histoires, à des petites histoires
D'abord, l'histoire c'est un espèce de grand buffet dans lequel tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Ça c'est sûr, mais par ailleurs dans l'histoire telle qu'elle est faite, je pense qu'il y a des gens qui ont une conception de l'histoire qui est muséographiée, qui est l'histoire de France, c'est une espèce de monument, un panthéon, il faut qu'on s'incline devant, qu'on soit tous d'accord avec tout ce qui s'est passé. Et puis il y a une autre conception de l'histoire qui est la mienne. Moi je regarde toujours l'histoire en disant si j'étais prof d'histoire, ce que je ne suis pas, je dirais à des élèves de 5e ou 6e, l'histoire c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous concerne, c'est vous qui faites l'histoire de demain. D'accord? C'est vous qui êtes les acteurs. Donc, étudiez l'histoire pour pas refaire les conneries qu'on a fait les fois précédentes. Si, en 1914, les pays européens avaient déjà été dans une Union européenne, il n'y aurait pas eu la guerre de 14. Tous les pays européens sont battus entre eux, et c'est ça qui a fait une boucherie, qui a fait près de 2 millions de morts.
On a pourtant l'impression que...
20 millions de morts, pardon.
Ça n'empêche pas de reproduire les erreurs du passé.
Mais c'est Karl Marx qui disait que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre.
Ouais.
Il y a une citation de Karl Marx qui
dit... Bon, j'étais bourré quand il a dit ça.
Je crois qu'il avait dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye.
Ou alors elle commence de manière double, elle se reproduit en farce.
Ouais.
Mais en tout cas on peut essayer de réfléchir à ça,
Donc il faut connaître l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Et à mon avis, la connaître avec un spectre large. C'est-à-dire, par exemple, là, j'étais très frappé le dimanche dernier, le 11 novembre, etc. Je pense que la plupart des gens qui ont suivi les cérémonies, etc., même s'il y avait 70 chefs d'État et de gouvernement qui étaient invités, je pense que la plupart des gens ont entendu, c'est ce qui sortait dans les médias, etc., que c'était une guerre entre la France et l'Allemagne. C'est pas une guerre entre la France et l'Allemagne, c'est une guerre entre toutes les puissances européennes. Et cette guerre, elle a été gagné finalement par la France et l'Angleterre. Hein. C'est pas une victoire française, contrairement à ce que dit Monsieur Mélenchon ou Madame Le Pen. C'est une victoire des Alliés et cette guerre, elle a été gagnée parce qu'il y a des Américains qui sont arrivés. Hein. C'était déjà comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde, on voit pas dans la Première Guerre mondiale le rôle des Américains. Vous savez combien il y a de soldats américains en France en 1918? 2 millions. D'accord, c'est pas un petit bataillon. Bon, ça on en a presque pas parlé. Donc moi, on essaie toujours le principe de ce petit Larousse de la culture générale, c'est de dire
qui est passionnant.
Ouvrez le spectre. Hein, regardez les grands noms de la philosophie, par exemple. Eh bien, Kant, c'est très important. Ou quelqu'un qu'on connaît pas nous en France très mal, qui s'appelle John Locke, qui est un grand philosophe de la vie politique. C'est le Montesquieu anglais, si vous voulez. Ben pour tous les Anglais, John Locke, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un qui a inventé la démocratie politique moderne. Donc, faut connaître son nom.
Alors, revenons à l'histoire. Ils étaient, enfin, à ce moment-là, quand Locke fait Two Treaties of Government, il y a Hobbes aussi avec le Léviathan à la même période, et il y a aussi Rousseau. On est dans un triptyque. C'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas solitaire. Alors, c'est un travail collectif européen.
Mais donc effectivement, alors dans l'ordre, c'est Hobbes, c'est le début du 7e siècle. Après, il y a Locke, fin du 17e, et Rousseau, c'est au milieu du 18e. Donc, c'est après, ils succèdent. Mais en tout cas, effectivement, par exemple, hein, je prends cet exemple. Quand on parle de la philosophie des Lumières, la plupart des Français, nous, on pense Voltaire, Rousseau, c'est les noms qui nous viennent en tête. Sauf que Voltaire, par exemple, il était complètement fasciné par les philosophes anglais. Voltaire, il était fasciné par l'Angleterre, parce qu'il disait que c'était le pays de la liberté, etc. Il a écrit les lettres anglaises, puis les lettres philosophiques, tout ça venait de l'Angleterre. Donc, il faut apprendre ça aussi, voilà. Donc, dans ce petit Larousse de la culture générale, c'est un espèce de... Alors après, je sais pas, mais j'espère qu'il va être traduit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc. Parce qu'on essaie d'en faire un livre de la culture générale.
Tu vas faire du fric, surtout.
Ça, c'est sûr.
Pour rejoindre ce que dit François, oui. La langue française elle-même est européenne, puisque la langue française est issue d'une langue indo-européenne que tous les pays d'Europe parlent, excepté les Hongrois et les Finlandais. Donc c'est vrai que cette espèce de lien permanent, collectif, il date pas d'hier, quoi. Il date depuis toujours. Donc ce vivre ensemble d'une nation européenne se retrouve dans le premier mot qu'on prononce tous quand on apprend à parler, quoi. Maman, ça se dit dans la même manière dans tous les pays d'Europe. Donc c'est déjà une belle leçon.
C'est ce que vous dites
collective.
Dans votre livre aussi. Ouais.
C'est pas vraiment une langue l'indo-européen. C'est une création des gens qui font de la grammaire, quoi, pour se dire qu'il y a une unité commune, on n'a pas d'attestation précise, mais en tout cas, voilà.
En tout cas, c'est les mêmes familles de langues.
C'est
un peu louche, ce que tu dis, là.
Pour revenir à l'histoire, oui, est-ce qu'il y a des périodes historiques qui sont, entre guillemets, à la mode, et est-ce qu'on est plus, en France en tout cas, attiré par, je sais pas, le Moyen-Âge, parce qu'il y a des chevaliers, est-ce qu'on est plus attiré par le Roi Soleil?
Ce qui domine toujours, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça c'est clair, hein. Il y a plein de livres qui sortent tout le temps, etc. Je suis encore en train de lire un nouveau livre qui va sortir la semaine prochaine sur les rapports entre Pétain et Hitler, qui est passionnant d'ailleurs. Donc il y a ça c'est sûr. Mais par ailleurs, l'évolution de l'histoire, elle se fait avec l'évolution de la société d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, dans les historiens parlent beaucoup plus des femmes qu'on en parlait jadis. Dans l'histoire de France traditionnelle, alors il y a Jeanne d'Arc qui était toujours l'exception, la Libye, voilà. Et sinon, c'était par exemple la Pompadour ou Marie-Antoinette, c'est-à-dire des idiotes, des frivoles. Parce que l'histoire au 19e siècle.
Ouais, pas tant que ça, oui.
Non, mais en tout cas, enfin, Pompadour, en tout cas. Parce que l'histoire au 19e siècle, parce qu'elle a été faite par des gens, les grands républicains, qui détestaient, qui étaient très misogynes, en fait. Michelet était très misogyne, pensait que les femmes, elles devaient être à la cuisine.
Parce que c'est écrit par des hommes, tout simplement.
Mais tout à fait, exactement. Et là, depuis une quarantaine d'années, il y a de plus en plus de femmes historiennes et qui font un travail, qui disent, mais arrêtez, considérez tout le rôle des femmes dans l'histoire, et c'est un rôle énorme.
C'est bien le problème de l'histoire, c'est que par qui est-elle écrite, par qui est-elle apportée, parce qu'elle est souvent écrite par ceux qui ont gagné quand il y a des conflits, elle est souvent écrite par des hommes, et donc c'est un prisme qui n'est pas le bon.
Mais ça, c'est bien évident que c'est comme ça, hein. Il y a un grand écrivain nigérian, dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans le petit Larousse de la culture générale, qui disait le jour où les lions sauront écrire, on arrêtera de glorifier les chasseurs. Hein. C'est bon, voilà. Donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée qu'il y a les obsessions d'un moment qui font qu'on lit l'histoire. Ce que je donne toujours comme exemple dans les livres, si dans 20 ans, dans 40 ans, la catastrophe écologique que les écologistes redoutent arrive, eh bien
elle est arrivée.
Bon, alors enfin, en tout cas, si on en est, voilà, eh bien les gens liront l'histoire les livres d'histoire qu'écrit Laurent Deutsch ou le mien, en disant, enfin, c'est grotesque quand vous parlez de Napoléon, vous parlez de Waterloo, et vous parlez pas du fait qu'en 1816 il y a eu tel épisode. Que j'ignore moi-même, mais un épisode qui prouve que déjà à ce moment-là le climat se dégradait, etc. Vous voyez, on va le relire, on va refaire des histoires de l'écologie et du climat.
Alors ça a déjà commencé sans remonter jusqu'à Napoléon, avec des déclarations de René Dumont dans les années 70 qui se présentait aux élections présidentielles et faisait sa campagne à vélo.
Tout le monde se foutait de lui.
Tout le monde se moquait de lui,
sauf nous.
C'était le fou. Et ben vous réécoutez le discours qu'il tenait, c'est incroyable. Et il y a une séquence d'ailleurs qui circule sur internet où Daroun Taziev, qui est sur un même plateau que le commandant Cousteau, en train de dire, et c'est pareil dans les années 70, en train de dire, le réchauffement climatique, s'il est de 2 degrés, les neiges vont fondre, les glaces du pôle vont fondre, les mers vont monter, et certaines plages, voire pays, vont disparaître.
Et Cousteau n'y croit pas.
Et Cousteau dit, mais ce sont des balivernes, vous dites n'importe quoi, la pollution n'y est pour rien, et enfin c'est fou, c'était dans les années 70.
Alors, ceci dit, Cousteau, on savait déjà
tout à l'heure, il faut dire que des libertaires, des écrivains libertaires comme Michelet, qui était peut-être misogyne par certains côtés, mais ont annoncé la catastrophe écologique, ou Ernest Cœur de Roy, ou Flammarion, ou Élisée Reclus, qui étaient tout à fait branchés sur le devenir de la planète.
Merci Albert, c'est formidable tout ce que tu dis, j'aime ce que tu dis. Le petit Larousse.
Non, il faut le dire.
Je t'aime. Le petit, il faut le dire aussi. Le petit Larousse Culture Générale, co-signé par Vincent Brocvielle et François Reynard, c'est absolument passionnant. Merci,
merci
François
Nagui.
D'avoir pris le temps entre deux livres d'histoire de venir nous parler.
Moi je le veux, hein. Je vais l'acheter.
Non, je le garde. Ah oui, pardon.
Je vais l'acheter.
Oui. Achète le tien. Tanguy Pasturo, bonjour Tanguy.
Bonjour.
C'est la fin d'une ère, la fin d'une époque.
Oui, Patrick Sébastien a décidé d'arrêter sa carrière.
Oh.
Les serviettes ne tournent plus, elles sont posées sagement sur les genoux cagneux de gens sombres qui s'entaillent les veines avec leurs fourchettes. Fini la joie, l'insouciance, les copains. À part vous, Nagui, qui vous éclatez, mais enfin, vous devez vous droguer. La télé aujourd'hui est triste.
Un peu quand même. On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Léla Gadeau-Bedani.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Guillermo
Guillet,
Albert Aldou,
bonjour.
Daniel Morin, bonjour. Alexis Le Rossignol, mais quel monde, et tout ça autour de Laurent Deutsch. Laurent, vous signez donc La folle aventure de la langue française romanesque. Cette aventure, vous qui êtes gaucher, n'est-ce pas ? Vous le prouvez sur la couverture de votre livre chez Michel Lafon. Vous l'avez faite, cette aventure, avec des documentations. Vous avez lu beaucoup de livres. Vous êtes allé voir des spécialistes. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir, et vous d'ailleurs, sur certains mots, vous dites l'étymologie n'est pas claire. Vous citez, vous donnez même par moment 3-4 étymologies ou origines, parce qu'on n'est pas sûr.
Bien sûr, le jour où les étymologistes seront d'accord entre eux,
c'est comme les historiens.
Ce sera ce jour-là, les poulons. Ah ouais, mais c'est ce qui fait avancer la vérité historique, c'est que c'est un faisceau d'éclairage et c'est battu en brèche. C'est le principe de la science et de la connaissance, quoi. C'est des choses qu'on à chaque fois dont on doute. C'est le doute cartésien.
Moi, je suis pas d'accord sur crétin des Alpes, par exemple, sur l'étymologie que vous donnez.
Ah bah
vous
dites
ça vient de chrétien. Ça peut être vrai, mais ça vient aussi de crétinus, qui vient du mot crêt, c'est le teint blafard des crétins des Alpes suite à un dérèglement thyroïdien.
Aussi, voilà. Et on a une autre étymologie dont j'ai pas parlé dans le livre, qui est de la crête. Ils étaient en hauteur, c'était la crête, donc ils étaient moins oxygénés, donc comme ils étaient en hauteur, ils étaient un peu plus bêtes.
Et qui a inventé l'amour ? Ça, c'est une vraie bonne question que vous posez dans le livre aussi.
Les troubadours. Mais pour revenir sur les chrétiens, autrefois, on les appelait pas les chrétiens, on les appelait les gentils. Donc il y avait un côté un peu idiot aussi. Les simples d'esprit, donc c'est pour ça que je suis avec cette étymologie. C'est les troubadours qui ont inventé l'amour. Si ça avait été les gens de la langue d'Oyle et non pas ceux de la langue d'Oc, on dirait Hameur. On dirait Hameur, parce qu'ils parlaient comme ça dans le Nord. Donc heureusement que ce sont les gens du Sud qui nous ont proposé
un
amour. Ça aurait été dur. Et oui, ça vient du 12e siècle. Quand on a commencé à faire de la poésie, de la sensualité avec la langue.
On va jouer justement avec les mots et avec la langue française.
Tu t'en fous de ma réponse.
Juste après. Comme
il enchaîne.
Comme la sanction.
Comme toi de ma question.
Non mais je continue avec Albert sur les étymologies.
Il a une horloge à la place du cœur.
Et Tanguy Pasturo est là. Tanguy Pasturo, il y a quelques jours, mercredi, c'était l'anniversaire de Patrick Sébastien.
Oui, ainsi que le vôtre, Nagui. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais vous ne les faites pas.
57.
Cette phrase, ça veut dire que j'avais envie de vous faire plaisir, mais que pour autant, j'avais la flemme d'aller sur votre page Wikipédia. Le 14 novembre, c'était aussi l'anniv de Stéphane Bern. Il a reçu en cadeau une bétonneuse et depuis fait du ciment afin de réparer l'église de Nogent-le-Rotrou, puisque Bruno Le Maire lui a fait un chèque de 11,20 € sur les 27 milliards rapportés par son loto. Le reste est passé dans l'achat d'antidépresseurs pour Jean-Yves Le Drian. Sont aussi nés le 14 novembre Henri Chapier, un vieux qui s'est fait dépouiller de son divan par Fogiel, lequel a dû prendre sa maison en viager et n'a pas pu attendre pour choper les meubles, ainsi que Bernardino et Hitler. Donc là, je plaisante. Hein, c'était pour tester votre réaction, Nagui.
Je sais qu'Hitler... Non, Hitler, non. Mais Samuel Umtiti est né aussi à 14 ans.
Si vous aviez dit, tiens, sympa, plutôt que « Oh non, le même jour que moi, je vais gerber », on aurait pu vous prêter des sympathies néo-nazies, ce qui aurait rendu votre image un peu sulfureuse, parce que là, vos discours pro-migrants à taratata, ça va 2 minutes, vous allez finir sur France Inter. D'autant que ces gens ne regardent pas la télé, puisque dans l'Aquarius, il n'y a rien. Avec un goût plus affirmé, ils auraient choisi Costa Croisière. Et donc, Patrick Sébastien est aussi du 14-11. Mais cette année, pour son anniv, il a pleuré dans son slip à trompe sans même l'énergie de bifler sa grand-tante. Car Cyril Hanouna, son héritier direct, même sens de la jaille, même propension à trouver tout génial, alors que pourtant, la vie est une chienne. Regardez Benoît Hamon. Vous croyez qu'il s'éclate ? A végété seul dans son parti ? C'est le seul qui regrette de ne pas être schizophrène, parce parce que ça lui permettrait d'entendre d'autres voix que la sienne. Même envie de dire à Michel Onfray qui parlerait de Spinoza, ta bouche bolos, soit tu montes ta teub, soit tu imites Sarko, soit tu lances une tarte sur Gilles Verdez. Hanouna donc l'a annoncé, Patrick Sébastien met fin à sa carrière télé et on a mal à notre bonhomme en mousse. Ça fait deux jours qu'en France, par un serpentin, n'a été lancé chez Jiffy le rayon des tabliers rigolos avec des seins est vide. Ras-le-bol du jeunisme, on n'en peut plus. Parce qu'une par une, les stars de la télé se font virer. On a perdu Georges Pernoud, plus grand spécialiste de la mer. Il savait exactement quel merlan vivait dans telle bouteille plastique au milieu de l'Atlantique. Julien Lepers, le type qui naturellement avait l'énergie de toute une équipe du Tour de France dopée. Jean-Pierre Foucault, qui est sur le point de se faire sortir. Il ne lui reste plus que Miss France, ce concours obsolète où des filles roulent du huc afin de rendre moites les amis de leur père qui les matent en se caressant. Et là, Patrick s'est Sébastien se fait jeter comme ça, alors qu'il est dans nos vies depuis toujours. Arrêtez Sébastien d'un coup, c'est plus dur que de sortir du crack. Moi, je vais lui écrire pour lui demander trois poils de son bouc et me les appliquer en patte sur la fesse droite.
Ah, Patrick Sébastien, c'est l'esprit français.
Oui, mais la mondialisation a tout détruit. Parce que les ricains sont là à glapir aux blagues de Jimmy Fallon. L'ensemble de la planète doit se taper des présentateurs en costard avec des invités glamour. Mais qui a besoin de Nathalie Portman quand on peut avoir Evangélie ? La France, c'était ça. Des mecs sapés comme des gitans, des actrices de sitcom aux dents pas droites, des pétomanes et des cracheurs de feu. C'était la vraie vie. Vous croyez que Will Smith, il existe en vrai ? Ben non. À la sortie du plateau, il retire son maquillage, ses dents, ses faux pectos, et à la fin, vous récupérez Bill Cosby s'il avait fini en tapis de sol après avoir été trucidé par une des femmes qu'il a violée. Alors que vous filmez Philippe Gueluc. Bon bah, vous arrêtez de le filmer, ça reste Philippe Gueluc. C'est du bio. Vous le foutez chez Auchan à la boucherie, le vendeur arrive à retracer son parcours. Pire, alors qu'elle était les partout dans le monde, on se pomponne, on se fait beau. Nous, on a les Baudins, des mecs qui ont fait le choix d'être le plus moche possible. Il n'y a qu'en France qu'on dit à sa maquilleuse, vas-y Maloute, ravage-moi la gueule. Patrick Sébastien, dans ses émissions, a quand même fait chanter Lionel Jospin. Il l'a déquassé à une époque où le GHB n'existait pas, alors que l'autre est moins fun qu'un bouquin sur les herbes aromatiques. Il a fait interviewer Jacques Chirac par Tataillé, une marionnette. C'est comme si aujourd'hui Macron était interviewé par Castaner. En 95, il a lancé la candidature à la présidentielle de Marlène, la Nabila de l'époque. Je suis arrivé trop tard dans les médias. On s'est trouvé, Nagui, 20 ans après que vous vous soyez débarrassé des naguettes. Maintenant, vous avez Daniel Morin. Bon, là aussi, il n'y a qu'en France qu'on a Daniel Morin. Un mec avec une telle hygiène aux États-Unis, c'est comme le Roquefort, il est bloqué à la douane. Et je bosse chez Ardisson, alors qu'il n'y a plus ni Talia, ni Ticia depuis 15 piges. Maintenant, dans les couloirs, je croise Buffy et ses implants en train de hurler à Nadine de Rothschild et Farrell qu'elle est une catin. Mais il n'y a plus de gens sexy à la télé. J'ai des amis qui se retrouvent à se tripoter devant Karim Rissouli sur France 5, non. Faute de mieux. Hein, ils ne me le disent pas, bien sûr, mais je vois bien qu'ils sont plus ouverts à la diversité. Hein, ce sont des mecs qui écoutaient Sweet Home Alabama et qui là vous disent, j'ai essayé FIP, mon Dieu, la rumba togolaise, j'ai pris une claque. Patrick Sébastien est le symbole d'une France qui disparaît, celle des taureaux piscines où entre deux Ricards on jouait à Pouette-Pouette Camion. À quoi vont ressembler nos samedis soirs désormais, hein, sans acrobates chinois dont on se dit pourvu qui tombe, sans Didier Gustin qui imite je sais pas trop qui, mais enfin il le fait bien, sans ces gens qui dansent et qui chantent les yeux enfiévrés par l'idée que la France c'est pas juste Hugues Capet, Léo Ferré, c'est aussi Thierry Hazard, la joie, le musc, la légèreté. J'ai tellement aimé le Gambadou quand j'étais petit. Au revoir Patrick.
Merci.
Romanesque, la folle aventure de la langue française où on apprend beaucoup de choses. Par exemple, tiens, arrobase. Est-ce que quelqu'un sait ce que on va en profiter? Arrobase, c'est évoqué dans le livre.
Ouais, bah ouais.
Et alors, ce qui est fort, c'est
ça veut dire en secours, retour à la base, à la maison.
Pas du tout.
Voilà.
L'arrobase est
une lettre très ancienne.
C'est une lettre très ancienne. On a l'impression qu'elle est très moderne parce qu'elle sert pour toutes les adresses email. Et en fait, vous expliquez dans le livre que ça vient du latin ad, qui est très proche du at anglais
c'est la même chose, c'est qui tend vers
at Gmail,
c'est la direction, voilà. Ouais.
Et que c'était simplement parce que des scribes n'avaient plus de place sur les parchemins qu'ils trouvaient des raccourcis pour gagner de la place.
Oui, c'est un dé entrelacé dans un
dé,
a, quoi.
Ouais, le dé qui tombe, qui vient comme une espèce de serpent.
C'est le a de latin.
Et le a et le dé.
Et c'était une mesure au Moyen Âge sur les marchés pour donner un prix, pour fixer un prix, pour dire voilà le prix de telle ou telle chose. Et évidemment avec l'évolution, avec la normalisation représentation aussi des poids et mesures. Cette mesure ancienne a disparu, sauf qu'elle est restée quand même quand on a commencé à inventer les claviers de machines à écrire, mais c'était désuet et obsolète. Et quand on a créé donc les
non, mais ce qu'il faut, c'est que c'était quand même sur les claviers déjà
début. C'était et ça,
alors et que personne s'en servait.
Le mot Haroub vient de l'arabe qui veut dire le quart. Le quart. Donc on est vraiment dans un chiffre, on est vraiment dans une mesure, dans une unité de mesure. Et quand on a créé donc le courrier internet au XXe siècle, et ben le mec a inventé ça, a regardé sur son clavier quelque chose de disponible, quelque chose qui était pas trop utilisé, et il a pris le arrobase. Et le dièse aussi connaît un petit peu la même évolution, puisque ça redevient aussi quelque chose qui est de comment qui sert à internet, alors qu'à
c'est
la base
un,
évidemment
c'est un hashtag c'est, maintenant.
Ouais. Alors qu'au départ c'est évidemment une inflexion pour la musique.
Et tant qu'on en est à évoquer l'arabe, je sais que ça vous a été reproché une déclaration dans cet à vous sur alors je sais pas comment ça a été formulé précisément.
Ouais, ça a été repris surtout pour chercher du mal là où il y en avait pas. En
gros,
fait,
on vous prêtait des propos selon lesquels ce serait idiot d'apprendre l'arabe à l'école.
Ce qui est complètement stupide parce que je réagissais par rapport à des images où on parlait d'instituer obligatoirement l'arabe à l'école. Et je dis ça a aucun intérêt d'obliger les gens à apprendre l'arabe.
En même temps, il en a jamais été question.
Non, mais moi je me souviens quand j'avais
qui circule et qui envahit le débat public.
Voilà,
pour
et je réagissais par rapport à cette bêtise là en disant que c'était souvent instrumentalisé par certains qui veulent absolument combattre et utiliser le débat, inflammer les choses. Et j'en disais, rassurez-vous, la langue française est déjà pleine de métissage. Le vivre ensemble existe déjà dans la langue française puisqu'il y a 600 mots arabes. Mais pour en revenir à l'école, et c'était déjà mon cas de mon temps, de manière optionnelle, au même titre que le chinois, l'espagnol ou le hongrois. Moi qui suis d'origine hongroise, j'aurais bien aimé aussi l'apprendre à l'école. C'est évidemment nécessaire et passionnant puisque d'apprendre plusieurs langues permet de lutter contre le vieillissement des cellules et des maladies comme Alzheimer. C'est scientifiquement prouvé. Donc le plus de langues on parle, le mieux c'est. Mais n'oublions pas que la plus belle d'entre elles, et je suis très chauvin, c'est la nôtre, parce qu'elle les rassemble toutes.
Mais
c'est vrai que dans la langue française, il y a déjà au moins 600 mots d'origine arabe, et ça date pas du XXe siècle avec l'immigration récente. Ça date de vraiment des croisades.
Surtout
ça a
alcool.
Ça a alcool, azimut, algèbre, la jupe, le truchement. Il y en a plein.
Et alors, le chiffre zéro. Les abricots. Vous dites ça dans le Figaro, une interview.
Oui, le zéro, c'est le chiffre, cifre, qui était le zéro et qui est devenu le chiffre aujourd'hui. C'est passionnant, ce métissage-là est déjà présent dans la langue.
Dans le livre, origine de. Bon, budget, on l'a déjà dit. Du baptême, tiens.
Eh, baptisma.
On est allé. Okay, c'est les Grecs.
Elle répond à son propre livre, la brouille. Il connaît les réponses. C'est pour ça qu'il gagne.
Alors, c'est pas à toi que je pose la question.
Excuse-moi, je vais
faire le berzingue. Non, c'est pas à toi que je pose la question. Baragouiné, ça viendrait de quoi?
Bara, le pain, et gouine, le vin, en breton.
Exactement.
Oui, mais il y a une autre étymologie possible.
T'es tombé là,
on l'a perdu.
Tout d'un coup, il a descendu. C'est The Voice inversé, quoi. Je me retourne pas, je disparais.
Mais avec classe, tout en répondant à la question.
Non, mais il y a une autre étymologie.
Ça l'a laissé sur le cul, quand même.
Parce que c'est vrai que c'est le pain blanc.
Alors, on va préciser parce qu'on est à la radio. Mais Laurent est pratiquement tombé de son siège, mais tout en continuant de parler dans le micro.
Non, mais n'oublions pas quand même qu'au XVIe siècle, il y avait déjà le mot bargain, qui est barguinier, qui voulait dire marchander, qui vient de marcher. Donc il y a une étymologie possible aussi de ce côté-là. C'est pas simplement donc peut-être cet assemblage breton. C'est sans doute les deux. Pourquoi pas? Pourquoi c'est un
mais
plutôt
c'est
que l'autre?
Souvent les deux d'ailleurs.
C'est souvent les
souvent
deux.
Souvent se marie.
Alors tout à l'heure, Albert disait qu'il n'était pas d'accord avec Crétin des Alpes. Seriez-vous d'accord avec Ver de rage? Ça viendrait de quoi?
De la bile, de la couleur.
Bravo.
Ah ouais, mais toi t'as lu le livre, toi.
Ouais.
J'ai fait de l'étymologie. Moi aussi j'étais professeur. J'étais spécialisé en étymologie et en sémantique.
Racontez-nous, allons-y.
Non, pas du tout.
Vers de rage, pas ta vie.
Vers de rage, on croyait. Il y avait la théorie des humeurs au Moyen-Âge. Il y avait la théorie des humeurs, dont la bile qui était de couleur verte, dont on pensait que cette émotion, la colère ou les emportements, étaient dus à
humeurs.
L'influence de cette humeur-là qui était la bile.
Alors, voilà, donc sur crétin de colère, vers de rage.
Vers de rage.
Et donc la couleur compte rouge beaucoup, puisque le crétin des Alpes, c'était aussi la mine. Alors,
c'est compliqué, mais j'avais expliqué ça dans le dictionnaire des journaux du capitaine Haddock, donc je triche un peu parce que
je me suis penché sur le problème. Bien sûr.
Rouler des mécaniques.
Ah ouais.
Ça viendrait d'où ça, rouler des mécaniques?
Ça, on l'a cité tout à l'heure dans ta chronique.
Pas d'idée?
Non,
Laurent.
C'est pas avec une machine de guerre?
C'est vous qui avez
fait ça. Non, celle-là, hein?
Ah ok, d'accord.
Non, celle-là, j'ai un doute sur celle-là, ouais.
Alors ok, on va...
Attends, redis-moi le début.
C'est page combien?
Je vais retrouver. C'est page combien?
Non, mais c'était les carapaces, les trucs, là, attends, je crois que c'est ça.
Non, alors...
C'est pas les squelettes, les articulations.
C'est les barrières début du 20e.
Les comment ?
Les barrières début du 20e siècle.
Redis-moi les péages.
Non, Paris début du 20e siècle, dans son langage populaire, escarpe, petite frappe qui se balade, la moustache gominée, casquette sur le côté, couteau dans la poche, roule des mécaniques.
Ah voilà, parce qu'ils avaient des couteaux dans la poche.
C'est une expression argotique pour désigner l'assemblage des os du squelette.
Voilà, ça c'est le squelette. Non, c'est le squelette. Non. Toute la mécanique humaine, voilà.
La mécanique invisible qui roule assez joliment pour permettre au marlou de se déhancher pour avancer. Né au vent et en sucer une.
Mais parce qu'il y a une autre étymologie que
j'ai
pas
utilisée. On parle de cigarettes, hein.
Ouais. Il y avait une autre étymologie qui parlait aussi, qui faisait référence aux machines de guerre. Quand ils étaient impressionnants, ils arrivaient avec leur artillerie, avec leur gros chariot, etc. Et rouler des mécaniques, c'était aussi dire, bah là, il en impose le mec, il va nous dégommer.
En tout cas, c'est rempli d'anecdotes, c'est intelligent parce que c'est vivant. Et c'est surtout ça, moi, que je retiens. Vous dites à la fin, le français est une langue de partage. C'est surtout une langue vivante, ouais. Et qui ne doit pas rester repliée sur elle-même. Il faut la respecter.
Oui, sinon elle peut disparaître et on va plus comprendre. Ce qui prime pour la langue française, c'est l'usage. C'est l'usage qu'on en a. Et quand les mecs ont voulu commencer à la fixer, donc avec les académies au XVIIe siècle, il y a eu deux grands académiciens qui sont les pères du français, institué, quoi, vraiment objectivé comme avec une syntaxe, avec une grammaire, sont des gens comme Malherbe et Vaugelas. Mm-hmm. Malherbe privilégiait le bon usage, c'est-à-dire le langage de tout le monde, quotidien, celui le plus répandu pour qu'on puisse se comprendre. Vaugelas ensuite a dit non, ce qui prime, c'est le bel usage, à savoir la langue de la cour. Donc on oscille encore aujourd'hui entre ces deux formes, mais finalement, ce qui se rejoint, c'est l'usage. Comprenons-nous, c'est le meilleur moyen de maintenir le français en vie, de le maintenir ouvert, généreux, dynamique, ce qu'il est depuis toujours.
Mais il n'est pas menacé, le français.
Pas du tout, pas voilà. Du tout.
Et acceptons la différence avec la Belgique. Voici Guillaume Guiz.
On va loin.
Ça va les amis gosses ?
Je suis tout.
Oui.
Ça va. Hier matin, j'étais devant ma douche comme ça, j'étais là, j'y vais pas. Je me disais qu'est-ce qu'il aurait fait Daniel dans cette situation. Donc je suis retourné dans le salon avec mon caleçon de la semaine et mon amour de la négligence. Et là, je suis allé sur le site de France Info. Devinette, vous savez ce qui est bien sur France Info ? C'est qu'il y a plein d'infos. Voilà, jamais déçu. Et bien c'est la technique de la charcuterie en fait. Qui tu croises dans une charcuterie ? De la charcuterie. Voilà, donc ça prend personne en traître évidemment.
C'est écrit.
Mais voilà, évidemment, c'est pas que t'arrives dans la charcuterie, tu dis ah oh, putain, t'as vu ils ont des gambas, oh, ils vendent des jogging. Enfin non, voilà, c'est de la charcuterie. Donc c'est pareil avec France Info. Sur leur site, il y a pas une boule de geisha, tu vois, ou une fiole de poppers. Pardon. En tout cas, tant que Leïla sera pas rédactrice. France Info,
c'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est pas faux.
Et c'est faux.
Ça a été dur aujourd'hui pour Leïla.
France Info, ils sont en fond sur le don d'info. Sauf qu'hier, en sus, leur site proposait une espèce d'application qui te permettait quoi ? De danser le Mia ? Pas du tout. Bien essayé. Non, et qui te permettait de calculer le nombre d'heures que t'avais passé dans ta vie à regarder des séries télé. Exactement, c'est stylé, non ? Franchement, depuis que Jean-Michel Apathy s'est barré sur Europe 1, soi-disant parce qu'il avait envie d'un salaire ou je sais pas quoi, ils se sont sortis les doigts, hein. Ils se sont sortis les doigts, France Info. C'est fini l'époque où ils invitaient Jean Lassalle pour un oui ou pour un non, là. Tu vois, qui disaient, ouais, alors monsieur Jean Lassalle, quelle est votre position sur le sida ? Ben voilà, donc. Avant, c'était n'importe quoi, France Info. Bref. Cette application, elle collait hyper bien à l'actualité chaude, évidemment, des séries, puisque comme vous le savez, ça fait quasi 17 ans jour pour jour qu'est sorti le fameux épisode 4 de la saison 11 de Julie Lescaut. qui était effectivement l'épisode où tout le monde était là. What? Vous rappelez pas? Non. Mais si, c'était quand il y avait l'inspecteur Motta, à un moment, il avait eu un doute.
Non plus.
Mais Julie Lescaut l'a fait là. Ne touchez pas à ma scène de crime. Non, oh, putain, vous rappelez pas. Vous êtes pas passionné par les séries, c'est ça votre problème. Vraiment, moi j'étais critique série pendant 6 ans. Vous savez pas ça?
Non,
vous le saviez pas. Vous savez pourquoi? Parce que le rapport, ça a toujours été bonjour, au revoir, Ernesto, vas-y, tu veux pas me prêter un rein, passe-moi ton crunch et tout. Il y a jamais eu un truc de. Tu vois, je vous ai toujours là comme ça. Oui, tu dis encore une fois que la France a gagné la Coupe du Monde, c'était pas mérité, on te renvoie sous le seuil de pauvreté, etc. Donc voilà. Forcément, vous savez rien de moi. Vous savez rien de moi. Regardez, it's all in the game. Regardez, it's all in the game.
Ouais, ça,
c'est en hommage à Omar dans The Wire, vraiment. Et sur le cul, j'ai cordé un jour, cordé toujours. Vraiment, parce que j'oublie pas. Pierre Mondi, je l'oublie pas, moi.
On va préciser que tu parles de tes tatouages.
Je parle mon tatouage, mais c'est vrai que c'est pas très radio. Donc autant dire, j'étais tout excité à l'idée de calculer le temps total que j'ai passé à regarder des séries dans ma vie. Et bien, bout à bout, c'est 7 mois de ma vie. C'est énorme, hein, c'est le temps de gestation d'un prématuré, quand même. J'ai converti ça en heures, ça fait 5000 heures. C'est le temps de gestation d'une question de Nagui. Des réponses de Laurent Deutsch, en l'occurrence. 5000 heures de ma vie à regarder des séries, ça m'a donné envie de crever dans une margarine. Vraiment. Et puis j'ai réfléchi. J'ai quasi 37 ans. Ça fait 324 000 heures. Ça veut dire, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. 324 000 heures de ça tout soustrait plus ou moins 100 000 heures de sommeil, entre 12 et 16 000 heures de masturbation, plus ou moins 10 000 heures à écrire mes chroniques, 2000 à écrire celle de temps qui passe sur eau. Et il reste vraiment, il reste 200 000 heures disponibles pour ma télésérie, j'en ai utilisé que 5 000. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai fait du reste de mon temps? Comment ça se fait que j'ai pas genre au moins deux chroniques ici, tu vois, ou ne fût-ce qu'une famille ou un truc comme ça? Vraiment, on se demande, hein, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, quoi. Finalement, elle m'a putain de déprimé, cette application. Ouais. Je conseille à France Info de rester sur son core business, l'info. Allez, bonne émission, les amis.
Merci,
bravo.
Bravo. Avec Nagui.
Et on te retrouve au Bataclan le 26, 27 et 28 décembre.
Tout à fait.
Oui.
Ça approche.
Je viendrai te voir, moi.
Ça approche.
Je serai là.
J'aimerais savoir, Laurent Deutsch, tout à l'heure, vous avez dit que vous presque par accident, vous aviez joué la comédie, plus pour interpréter des rôles, jouer des personnages, que ce que vous aimez, c'est l'histoire.
Ouais.
Justement, on vous a beaucoup, ça a été un énorme succès autour des métros, les rues, maintenant les villes sur votre Instagram, vous amusez à expliquer l'origine
des grandes villes de France.
Voilà, c'est ça.
Sur Instagram, Laurent Deutsch officiel, l'histoire des grandes villes de France racontée chez vous. En 5 minutes, plus, livrez chez vous plus vite que la redoute, à fond la caisse, et tout ça en courant, pour permettre de comprendre ce qui se cache derrière le mot, derrière le nom. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis convaincu que les mots, les noms des lieux, comme les mots qu'on emploie, ce sont des monuments dans nos bouches. Laurent. Ils ont des choses à nous raconter pour peu qu'on y prête l'oreille. Vous savez, Nagui, j'ai l'impression de vivre dans une réalité augmentée, j'ai l'impression de vivre en décalage.
J'ai peur.
Est-ce que vous voyez le film avec Bruce Willis là?
Tout
t'as pu voir avec ton temps libre, Guillermo?
Absolument.
Tu sais, le petit gamin qui dit à Nagui, il dit comme ça, je vois des gens qui sont morts, moi aussi. Je vois des gens qui sont morts. Je vois des choses qui ont existé.
C'est le public, c'est le public de Radio France. Hein.
Mais ce sont des choses qui ont façonné
10 ans d'avance à peu près.
C'est ça qui me passionne. C'est qu'en fait, sans tourner le coin de ma rue, eh ben je vais chercher l'île au trésor. C'est plein de surprises, plein de messages, plein d'aventures. C'est des histoires qui peuvent être anecdotiques ou emblématiques de notre histoire. C'est l'histoire de nos civilisations, de notre humanité. Et
vous
tout ça, c'est dans nos mots. C'est gratuit, c'est accessible près de chez vous.
Laurent,
allons-y, nous ne vivons pas.
Laurent, je vous entends très bien, ce qu'on veut dire. Vous n'avez pas envie de jouer à nouveau, d'être au théâtre
Je pense que je vais adapter, comme j'ai la chance que Romanesque connaisse un très beau démarrage en librairie, je pense que je vais l'adapter au théâtre, ouais. Je vais en seul en scène.
Au théâtre?
Oui, sur un seul en scène où je vais raconter donc la folle aventure d'un homme français.
Il va falloir choisir, au milieu des 380 pages.
Je le ferai à nouveau, déjà rouler des mécaniques, je vais l'oublier parce que je me rappelle. Mais je vais choisir, mais c'est pas difficile, je l'ai dans la tête. Ce livre-là, c'est un livre que j'ai écrit en un an et qui m'a jamais surpris. C'est-à-dire qu'il a toujours été dans le sens où je voulais écrire.
Vous seriez à nouveau une sorte de griot, une sorte de conteur sur scène,
mais toujours,
de vos propres
moi
mots.
Je suis un conteur.
D'accord, mais jouer, incarner un personnage, être dirigé par un réalisateur ou un metteur en scène.
Oh si, ça viendra aussi peut-être, mais pour l'instant je m'amuse tellement.
Pas de projet là-dessus.
Ah mais non, mais moi la petite chronique que je fais là sur internet, qui va donc me faire découvrir toutes les villes de France, ça m'éclate. Je trouve ça vraiment drôle, vraiment amusant, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un os à ronger, donc je vais pas le lâcher de sitôt.
Très bien.
Laurent Deutsch officiel sur Instagram.
Voici.
Et Facebook. Et ma chaîne YouTube.
Des excuses à présenter.
Tout est gratuit.
Daniel Morin.
Désolé déjà. Pour Alexis et Guillermo, je suis allé jeter un œil au classement, à la pause, au classement de l'interro. J'ai cru voir que vous étiez largement dernier, en grosse difficulté. Et ici, les gars, la main tendue aux gens en difficulté, là, c'est pas le genre de la maison. Vous avez compris, vous êtes virés. Alors, désolé pour Jean-Paul Sartre, dont le physique et notamment le strabisme ont été comparés à la difformité physique de Leïla, qui la pauvre est aujourd'hui et maintenant en larmes au milieu de ses fiches en braille. Désolé pour Laurent, j'ai eu le caïd de votre enfance au téléphone à la pause. Alors, il est ravi que vous ayez parlé de lui. Hein. Il a dit avoir plutôt bien réussi dans le milieu mafieux. D'ailleurs, il aimerait bien vous revoir. Vous êtes invité à déjeuner à la mairie de Levallois-Perret. Et je suis désolé enfin pour le public que j'ai comparé à des morts, c'était pour rire les gars. Ouh, c'était quoi? Ah ben merde, non, j'avais raison.
Merci Laurent Deutsch, portez-vous
merci,
bien.
Nagui, merci à tous.
Bravo pour ce livre chez Michel Lafond, Romanesque, la folle aventure de la langue française. Lundi, André Dussolier et Kéron seront nos invités. Tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end sur France Inter et dimanche, on te retrouve, Daniel Morin.
Oui,
avec Fanny.
Fanny Herrero et l'excellente Mélanie Page.
Excellente.
Je vous la présenterai.
J'écouterai surtout. À dimanche, bonne journée.